on commence le chapitre 10 de Bezrat Hashem, le 10e chapitre de Galat Hatshuva. D'accord. Qui est également un chapitre très important. Puisque dans le chapitre 9, je vais résumer juste en deux mots ce qu'on a expliqué dans le chapitre 9. Comme j'ai dit la semaine dernière, Bezrat Hashem, on approche à grands pas de la fin du Tanya, en tout cas du Galat Hatshuva. Et Bezrat Hashem, je pense qu'on finira un peu avant Pessah. Donc d'ici là, on fera un long résumé, comme notre habitude, avec son papier, etc. Mais là, pour l'instant, on étudie chapitre par chapitre. Donc je vais d'abord faire un petit point. Où on en est? Qu'est-ce qu'on a expliqué dans le chapitre 9? Dans le chapitre 9, Perektet de Geret Hatshuva, on a expliqué le concept de Idabkut Rucha Berucha. Alors c'est un point qu'il faut bien se rappeler, parce que c'est un point qui revient très souvent dans la Kabbalah, dans le Zohar, surtout quand on parle de Teshuva. Alors je vais traduire. Idabkut Rucha Berucha, bonsoir. Ça veut dire, alors je traduis d'abord littéralement, ça veut dire attachement d'esprit à l'esprit. Et on a expliqué. Rico. Pour les intimes, c'est ça. Alors, on a expliqué la semaine dernière que Idabkud Rucha Berucha, ça veut dire quoi? Ça veut dire attacher un esprit à un autre esprit. Ça veut dire quoi? C'est ce qu'on appelle être amoureux de Dieu. Puisque les gens pensent que l'amour peut se transmettre uniquement par le biais du physique. Quand j'aime quelqu'un, je dois l'enlacer, je dois l'embrasser, etc. Alors qu'on a expliqué que selon la Torah, c'est pas du tout ça, être amoureux de quelqu'un. Selon le Zohar, être amoureux de quelqu'un, on est d'abord amoureux dans sa tête. Donc, c'est plus que la tête, le Zohar appelle ça l'esprit. C'est quand nos esprits concordent, quand mon esprit s'attache à quelqu'un d'autre, là on peut dire que j'aime cette personne. Donc de la même manière, il dit, on a des gens qui aiment Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire avec le temps, on aime Akadosh Baruch Hu. Et naturellement, quand on aime Akadosh Baruch Hu, on a envie de faire quelque chose. On a envie de sentir que notre corps vibre. D'accord? Alors sans arriver à des exemples extrêmes, mais je veux quand même citer cet exemple. On a l'exemple qu'on avait étudié il y a quelques années, l'exemple de l'histoire de Nadav et Avihu. Qu'est-ce qui se passe avec Nadav et Avihu? Ils sont entrés au Kodesh HaKodeshim, au Saint-Dessin. Pourquoi ils sont entrés au Saint-Dessin? Parce qu'ils ont senti qu'ils voulaient s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. C'est bon, tout le monde est là? Allez, messieurs, on pose le portable. Allez, pose le portable.
Toujours les mêmes.
Ah, parce que SFR a enlevé... Ils ont enlevé la clause, là, pour résilier. C'est pour ça que... Alors, c'est ça? Ça t'a résigné. Alors, donc on a expliqué que Idabkut Rucha Berucha... Pour la TVA, c'est ça? Alors... Idabkud Rucha Berucha, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, expliquer à l'Admor HaZaken que selon le Zohar, qu'est-ce qu'on considère être amoureux d'Akadosh Baruch Hu? Être amoureux d'Akadosh Baruch Hu et être amoureux en général de quelqu'un, j'étais en train de dire, ça ne veut pas dire qu'on a besoin de s'attacher à lui physiquement. C'est pour ça qu'il y a des gens qui pensent que pour s'attacher à Dieu, ils sont obligés de faire quelque chose d'extraordinaire, de donner leur vie. D'accord? Et que tant qu'ils n'ont pas donné leur vie, ils n'ont rien donné à Akadosh Baruch Hu. Viens t'expliquer, l'Admor HaZaken ne dit pas du tout. C'est pas ça ce qu'on appelle être amoureux de Dieu. Et c'est pas ça ce qu'on appelle être amoureux de quelqu'un. Que c'est pas parce que j'ai donné ma vie pour quelqu'un que ça veut dire que je suis amoureux de lui. Pas du tout. Dans la Torah, ce qu'on appelle être amoureux de quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand nos deux esprits s'attachent. Comment je le fais concrètement? Ça, je veux pas revenir dessus parce que on l'a expliqué de manière. Comment je le fais concrètement? C'est quand je vais étudier la Torah. C'est-à-dire le fait d'étudier la Torah, d'attacher mon esprit à Dieu, que je dis le sens de ma vie, c'est Akadosh Baruch Hu, ça s'appelle que mon esprit s'est attaché à l'esprit d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce qu'on a appelé la semaine dernière, c'est ce qu'on appelle la Teshuvah Ila'a. Vous vous rappelez Teshuvah Ila'a? Alors je vais rappeler brièvement. Et après on commence dans les mots. On avait Teshuvah Tata'a et Teshuvah Ila'a. Teshuvah, donc traduction, c'est de l'araméen. Teshuvah Tata'a, ça veut dire quoi la Teshuvah? D'en bas. Teshuvah Ila'a, la Teshuvah d'en haut. Alors c'est quoi la Teshuvah d'en bas, la Teshuvah d'en haut? On a deux catégories de Teshuvah. On a une Teshuvah de bas niveau. C'est les gens qui font Teshuvah par exemple, par crainte. D'accord? Parce qu'ils ont peur de ce qui va se passer le lendemain, ou parce qu'ils se disent, bon, il faut bien que je mette un sens dans ma vie. C'est déjà très très bien, c'est déjà super. Mais c'est pas ça ce qu'on appelle la Teshuvah Ila'a. Après, avec le temps, il faut essayer d'amener notre Teshuvah à un niveau plus fort. À un niveau qu'on va appeler la Teshuvah Ila'a. C'est quoi la Teshuvah Ila'a? Teshuvah Ila'a, ça veut dire que je ne fais pas Teshuvah parce que j'ai peur d'Akadosh Baruch Hu. Je fais Teshuvah parce que j'ai compris que mon esprit s'est attaché avec Akadosh Baruch Hu. C'est comme si je me suis marié avec Akadosh Baruch Hu. Je suis marié avec lui, ça veut dire que maintenant nos intérêts se rencontrent. Que maintenant on travaille ensemble. C'est ça, Idabkut, retenez bien ces mots. Idabkut, Rucha, Berucha. Dévec en hébreu, quand vous rentrez dans un supermarché, vous demandez du dévec. C'est de la colle. Idabkout, ça veut dire d'évêque, donc la colle. Roucha, c'est l'esprit. Berucha, avec l'esprit. Et ça, c'est le plus grand attachement qui existe. Pas seulement entre les hommes à Kadosh Baruch Hu, c'est même, on dit, entre un homme et son rave. Entre un chassid et son rabbi, par exemple. Qu'il n'y a pas besoin de l'enlacer, bonsoir, de l'enlacer physiquement pour dire que je suis attaché à mon rabbi, pour citer cet exemple. Pas besoin de l'attacher physiquement. La manière la plus forte de s'attacher à quelqu'un, c'est roucha berucha, c'est quand on va attacher, quand on va lier les esprits. C'est quand dans mon esprit, je travaille dans la même direction. C'est pour ça que quand on réfléchit de cette manière, on comprend. Hein. Voilà, il y a des gens qui étaient aux États-Unis, mais bon, malheureusement, ils n'ont pas pu aller chez le rabbi. C'est pas grave. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand nous on va chez le rabbi, et que c'est écrit comme ça dans le Mahane Lachon, qui explique, non, je le charrie, hein, ça se fait pas dans ton frère, en plus. Entre nous, c'est la famille. Alors, non.
Chaque fois que j'y vais,
C'est pour lui, c'est parce qu'on l'aime bien, parce que qui aime bien, charrie bien. Donc j'étais en train de dire que quand on va finalement, c'est quoi le sens? D'ailleurs on en a parlé dans le cours de Gemara hier matin. Quand on va à la tombe d'un tzaddik, finalement, ça sert à quoi? Si tu me dis que le tzaddik de toutes les façons est vivant, et que le tzaddik de toutes les façons, il est là, alors pourquoi j'ai besoin d'aller à côté de sa tombe? Pourquoi je peux pas être là à Paris, rue Fernand Vidal, je prie au tzaddik? Que ça change? Alors c'est expliqué dans Mahane Lachon, dans plusieurs endroits. D'ailleurs, c'est une partie de ce texte, on le lit quand on est au Kfarim Tzadikim. C'est écrit que lorsqu'on se trouve devant le kever d'un tzadik, il y a ce qu'on appelle ce fameux phénomène de Idabkut Rucha Berucha. Au moment où on se trouve devant la tombe d'un tzadik, c'est le Ruach, c'est notre esprit qui s'attache avec l'esprit du tzadik. Alors attention, Ruach, c'est une particule assez particulière de la Neshama. D'accord? Ça, on l'avait vu dans le Marsha. Bon, c'est un classique de la Kabbalah. La Neshama est composée de Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. C'est-à-dire que quand on l'appelle de manière générale la Neshama, on l'appelle Neshama. Mais en vérité, cette Neshama a 5 noms. Et le terme Neshama, c'est un des prénoms de la Neshama. Mais Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Alors écoutez bien. Le deuxième, il s'appelle Ruach. Ruach, c'est l'esprit. C'est quoi Ruach? Ruach, c'est la partie de la Neshama qui est liée au corps et qui restera ad vitam aeternam liée au corps. C'est-à-dire, tant qu'il y aura un corps, il y aura toujours un corps, parce qu'il restera toujours quelque chose, au moins une partie des ossements, toujours. Il restera quelque chose, puisque rien ne se perd, tout se transforme, d'accord? Donc il restera toujours quelque chose, c'est sûr. Bon. Donc, puisqu'il restera quelque chose, eh ben, toujours à cette partie du corps sera toujours attaché Ruach. Le Ruach. Donc quand moi je vais à la tombe d'un tzaddik, ou lorsque Dieu préserve, je vais donc à la tombe d'un proche, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Mon rouard s'attache au rouard de la personne qui est enterrée dans cet endroit. Idabkou roucha berucha. Et ça, vous comprenez que ça ne change rien s'il est décédé ou il n'est pas décédé. Ça ne change rien du tout. Parce que pour nous, de toutes les façons, ce qu'on veut t'expliquer, c'est que même de son vivant, je ne m'attachais jamais à son physique. Enfin, je m'attache à son physique, à son corps. Non, on ne s'attache jamais au corps de quelqu'un. On s'attache à l'esprit d'une personne. Or, l'esprit d'une personne, il n'y a pas de différence s'il est vivant ou il n'est pas vivant. Donc revenons à notre sujet. De la même manière, quand je dis que je m'attache à Kadosh Baruch Hu, il y a des gens qui disent, moi j'aimerais m'attacher à Kadosh Baruch Hu, mais je veux toucher quelque chose de tangible, quelque chose de physique. On dit, mais pourquoi? Tu crois que quand tu t'attaches à quelqu'un, à ta femme, à tes enfants, etc., à tes amis, tu t'attaches à leur physique? C'est pas leur physique que tu t'attaches, tu t'attaches à ce qui se cache derrière. Donc de la même manière, nous quand on s'attache à Kadosh Baruch Hu, et c'est ça la Teshuvah Ila'a. Teshuvah Ila'a, c'est je dis, moi je n'aime pas Kadosh Baruch Hu parce que je recherche quelque chose, parce que je veux qu'il m'amène la Parnassa, ou parce que je veux quelque chose d'extérieur. Non, je m'attache à Kadosh Baruch Hu parce que Idabkut Rucha Berucha. Nos esprits se sont liés, nos esprits se sont attachés. C'est pas que je m'attache à lui parce que j'attends de lui qu'il me donne quelque chose. Ça, il a dit, ça c'est Teshuvah Ila'a. Ça c'est le niveau le plus fort de Teshuvah. Quand une personne fait Teshuvah, on avait appelé ça la semaine dernière la Teshuvah réfléchie, la Teshuvah logique, ça c'est la plus grande Teshuvah qui existe. Maintenant, vous comprenez, ce qu'on va essayer de développer dans ce Perek, qu'une Teshuvah comme ça, c'est pas un travail d'une minute. Et c'est pas seulement un travail, en amont ou en aval, quand c'est avant?
En
amont, d'accord, c'est même un travail en aval, puisque... C'est pas seulement j'ai compris que je dois faire Teshuvah, j'ai compris que mon esprit doit s'attacher à Kadosh Baruch Hu, j'ai compris, ça y est, j'ai fait Teshuvah. Alors ça y est, maintenant c'est fini. Après Las Vegas. Non, pas comme ça que ça marche. D'accord? Miami, pardon. Pas du tout, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a un travail en amont, et il y a un travail en aval. D'accord? C'est quoi le travail en aval? Le travail en aval, c'est-à-dire qu'après, par derrière, le Baal Teshuvah, et là c'est le plus dur en vérité. Il doit faire du service après-vente. Le service après-vente du Baal Teshuvah, c'est ce qu'on va développer aujourd'hui. Voilà, si je peux donner en un mot le cours d'aujourd'hui, c'est le service après-vente du Baal Teshuvah, le SAV. C'est le plus dur. Parce que prendre une décision de faire Teshuvah, c'est relativement facile. Et même si le mode de Teshuvah que j'ai pris, c'est Teshuvah Ila'a, c'est-à-dire c'est une Teshuvah réfléchie, c'est une Teshuvah... Je le fais pas parce que j'ai peur du Gehinnom, je le fais parce que j'ai compris que je dois tout donner ma vie à Kadosh Baruch Hu, mais ça c'est la décision. Mais après cette décision, on a un SAV, on a un service après-vente, on a un suivi. Et ça c'est très très dur. Comme il va expliquer ici, ça va engager une tefila particulière, ça va engager une étude particulière, ça va engager toute une manière de voir les choses. Et c'est justement ce que l'Admor HaZaken va essayer de nous expliquer, comme ça nous au moins si on arriverait à être dans cet état d'esprit au moins quelques minutes par jour ou quelques minutes par semaine, ça serait déjà pas mal. D'accord ? Donc voilà, maintenant il va développer qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une personne qui fait teshuva. Mais après, en aval. On est d'accord ? Est-ce que c'est clair ?
Moi je suis d'accord. Si Yaakov est d'accord, tout le monde est d'accord.
Au début, on était un peu dispersé, maintenant ça va. Là. Je crois qu'on est rentré dedans. Ok. Alors chapitre 10, Perek Yud, Veiné. Vous savez, Veiné, allez, on y va dans les mots. Veiné. Teshuva, il a A. C'est donc Teshuva, donc on va traduire dans les mots. Teshuva, il a A, zo. Cette Teshuva, il a A, on a dit, ça veut dire quoi, il a A? Ça veut dire Teshuva d'en haut. Ça veut dire la Teshuva de haut niveau. Qu'on vient d'expliquer. Vei dapkuta derucha berucha. Quand cette Teshuva qui dit que je ne m'attache pas à Dieu, je fais pas Teshuva parce que j'ai peur du Gehinnom, mais je m'attache à Dieu parce que mon esprit s'attache à l'esprit d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que je comprends que ma vie sans Akadosh Baruch Hu ne vaut rien. Très bien. Alors il dit, donc, ça c'est ce qu'on appelle idapkut rucha berucha, quand l'esprit va s'attacher avec l'autre esprit. Al yede Torah ugmilut rasadi, donc, je vais décider de faire la Torah et de faire les mitzvot, etc. Alors écoutez bien. Ou, c'est parce que Gmilut Rasadi c'est le nom de toutes les mitzvot. Ou biprinat amshacha milmala le mata liot dvarachem mamash befi. C'est extraordinaire ce qu'on a expliqué ici. Il dit qu'une personne, ibifrinat, tu l'as?
Oui.
Ibifrinat. Une personne qui a réussi à arriver à la conclusion que lorsqu'il fait une mitzvah, il l'a fait pour Dieu, et que lorsqu'il est en train d'étudier la Torah, il le fait pour Dieu, cette personne-là, lorsqu'il est en train d'étudier une page de Gemara, lorsqu'il vient à un cours de Torah, lorsqu'il va étudier une halakha, il n'a pas simplement la sensation qu'il est en train d'apprendre quelque chose dans un mode d'emploi. Bon, il y a un mode d'emploi, on t'explique comment faire. Bon, après le mode d'emploi, il peut être intéressant. Hein, vous demandez à n'importe quel juriste, à n'importe quel avocat, bonsoir, il va dire, ça peut être très intéressant, on peut avoir des cas de jurisprudence très intéressants. Mais c'est pas pour autant que c'est sa vie. Alors, c'est ce qu'on explique en hébreu. D'abord, je vais donner la terminologie de la Kabbalah, et après on va expliquer. Il y a ce qu'on appelle Amshacha, Milmala le mata, et il y a ce qu'on appelle Aala'a, Milmata le mala. Je traduis. Il y a ce qu'on appelle faire descendre du haut vers le bas, et il y a ce qu'on appelle élever du bas vers le haut. Ça veut dire comme ça. Je vais vous donner un exemple très simple. Par exemple, imaginez-vous que je suis en train de parler à mon fils, et je suis en train d'essayer de lui expliquer quelque chose. Je l'aide à faire ses devoirs, par exemple. Moi, c'est pas encore mes enfants, je leur fais pas encore les devoirs, mais j'aide mes enfants à faire les devoirs. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? À ce moment-là, je suis en train de descendre, d'accord, du haut, parce que je me prends pour, enfin, je suis plus haut que mon fils pour, par rapport à ça. Donc, je suis en train de descendre du haut vers le bas. D'accord. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand mon fils vient me poser une question? Et il essaye de comprendre ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est exactement le contraire. C'est lui qui est en train d'essayer de monter du bas vers le haut. Alors, écoutez bien la différence qu'il y a entre une personne qui a fait une teshuva tata'a et une personne qui a fait une teshuva ila'a. Je vais l'expliquer brièvement, et après on va revenir dessus dans la suite de ce cours. Vous allez voir que Bezrat Hashem, d'ici la fin du cours, tout sera clair. Alors, stress, vous allez voir, Bezrat Hashem. Parce qu'il y a beaucoup de détails, et beaucoup de détails, et c'est important de bien suivre. Il dit comme ça. Quand une personne, d'accord, imaginez-vous un juriste, ou un homme de halakha, qui est en train d'étudier la halakha. Mais qui n'est pas, il ne sent pas comment la halakha c'est sa vie. Il le fait parce que bon, il doit le faire, parce que c'est la loi, comme un juriste qui aurait étudié un texte de loi. Dans ce cas-là, d'après vous, qu'est-ce qui vient de se passer? Est-ce que c'est le bas qui descend vers le haut ou le haut qui descend vers le bas ou le bas qui monte vers le haut?
Bas vers le haut.
On repose la question. Alors, c'est pas grave, on va répéter, c'est pas grave. On va prendre le temps qu'il faut. Il y a deux procédés possibles. D'accord? C'est soit on a l'impression, par exemple, voilà. Là, je suis en train d'étudier une page de Tania. D'accord? Je suis en train d'étudier une page de Tania, j'essaye de comprendre qu'est-ce que l'Admor HaZaken veut dire. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer?
Haut vers le bas.
Ben non. Là, c'est le bas vers le haut. Parce que moi, c'est le bas, D'accord. Moi c'est le bas et le haut c'est le taniyat, donc j'essaye de comprendre ce que le haut voulait dire. Très bien. Maintenant imagine-toi, d'accord, que je vais voir un tzaddik et je sens un grand dévoilement, je sens comme ça une présence divine extraordinaire. Mais moi j'ai rien fait. Je sens une grande présence divine. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On a eu, d'accord, j'ai eu une descente du tzaddik vers moi, donc le haut est descendu vers le bas. C'est toujours comme ça dans la vie. Dans la vie, c'est soit le bas qui monte vers le haut, soit le haut qui descend vers le bas. C'est toujours comme ça. C'est toujours un des deux, dans tous les cas. Vous pouvez appliquer ça dans tout ce que vous voulez, même quand vous allez voir un client, quand vous parlez à vos enfants, quand vous parlez à votre femme, c'est toujours un des deux. D'accord? C'est soit c'est le haut qui descend vers le bas, soit c'est le bas qui monte vers le haut. Bon, alors maintenant on va comprendre ce qu'il veut expliquer ici. Il dit, c'est très simple. Il dit, lorsque vous avez une personne qui n'a pas fait cette teshuva ilah, ça veut dire que pour lui, pourquoi il a fait teshuva? Parce que bon, il a peur du Gehinom, etc. Mais quand il étudie un livre de halakha, il n'a pas l'impression qu'il est en train de... il a l'impression qu'il est en train d'étudier un mode d'emploi. De la même manière qu'il y a un mode d'emploi quand vous achetez un micro-ondes, il y a un mode d'emploi qui vous explique comment utiliser le micro-ondes. Bon, dans le mode d'emploi, imaginez-vous que c'est un mode d'emploi compliqué, qui te dit, voilà, t'appuies sur ce bouton plus ce bouton, ça fera ça. D'accord? C'est un mode d'emploi compliqué. Mais ça ne change pas que c'est un mode d'emploi. Ça veut dire que c'est pas ma vie. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Ben, cette personne-là, quand il lit le mode d'emploi, c'est le bas qui est en train de monter vers le haut. C'est-à-dire que bon, la Torah, elle reste où elle est. Moi, je reste où je suis, mais bon, j'essaye de comprendre un petit peu le mode d'emploi. Dit l'Admor HaZaken, une personne qui a réussi à faire une teshuva ilaha. C'est-à-dire qui a réussi à faire que dans sa tête, s'il fait la Torah, c'est pas parce qu'il a peur, ou pas parce qu'il a peur du Gehinom, ou parce qu'il a envie de donner un sens à sa vie. C'est encore plus que ça. Parce qu'il a compris que sa vie, dans sa vie, il doit former une seule chose avec Akadosh Baruch Hu. Alors écoutez bien la sensation que va avoir cette personne, et je la souhaite à tous, la sensation que va avoir cette personne lorsqu'il étudie une page de Torah. Qu'est-ce qu'il va avoir comme sensation? Il va avoir la sensation que ses mots sont les mots de Dieu. Qu'il est la réincarnation des paroles de Dieu. Alors, il va donner des exemples, et ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qu'on retrouve plusieurs fois dans la Gemara, mais sans que la Gemara n'explique pourquoi. La Gemara a dit plusieurs fois qu'il y a des sages qui disaient que lorsqu'ils étaient en train de donner leur enseignement, ils disaient on a l'impression que c'est Dieu qui est en train de parler par notre bouche. Ça fait un peu prétentieux, que tu te prends, Dieu qui parle par ma bouche, mais plus pour qui? D'accord? Que je dise que j'essaye de comprendre, j'essaye de percevoir, de capter un message, c'est une chose. C'est pas mais lui, de dire que je pense que Dieu m'a utilisé pour faire passer un message, c'est pas prétentieux? Pas du tout. Pourquoi c'est pas prétentieux? Parce qu'on a affaire à des gens qui se sont tellement annulés, qui font tellement un seul corps avec Akadosh Baruch Hu, pour reprendre le terme de la semaine dernière, qui sont tellement amoureux d'Akadosh Baruch Hu, que ces gens-là, lorsqu'ils répètent quelque chose, ils ont l'impression, vous savez, c'est comme un mari qui répète les mots de sa femme, et qu'il aime tellement sa femme, c'est pas qu'il a l'impression qu'il répète les mots de sa femme, c'est qu'il a l'impression que c'est sa femme qui est en train de parler au travers de lui. C'est valable de l'autre côté aussi. Ça, c'est extraordinaire. Là, ça veut dire qu'on a gagné quelque chose.
Plus difficile.
Ça veut dire que lorsque vous répétez quelque chose de votre femme, et que vous n'avez pas seulement l'impression que vous répétez et que vous avez essayé de comprendre quelque chose, vous avez l'impression qu'au travers de votre bouche, c'est votre femme qui est en train de s'exprimer. C'est valable pour les enfants aussi. Lorsque vous avez votre fils qui s'exprime, c'est pas seulement qu'il répète ce que vous avez dit, mais qu'au travers de ses mots, il est en train d'exprimer la personne que vous êtes. Là, ça veut dire qu'il y a quelque chose de grand qui s'est passé. Si on n'est pas arrivé là, bon, ça veut dire qu'on a eu ce qu'on appelle ici une teshuva de bas niveau, mais c'est pas encore une teshuva de haut niveau. Donc dans les mots du Zohar, ça s'appelle, c'est soit ça vient du haut vers le bas, soit ça va du bas vers le haut. Quand c'est standard, c'est du bas vers le haut. C'est-à-dire, bon, j'essaye de comprendre le message que Dieu veut me donner. Donc Dieu m'a donné un message, moi j'essaye de capter, j'ai capté, c'est bon. Mais bon, c'est moi qui essaye de capter un message qui est tout en haut. Celui qui est arrivé au niveau de teshuva, c'est complètement autre chose. C'est que même quand il va capter, il n'a pas l'impression ici que moi je suis ce que je suis, j'essaie de capter un message pour quelqu'un qui est plus haut. Non. Il va avoir le sentiment qu'à ce moment-là, je suis en train d'être le vecteur, d'être le messager d'Akadosh Baruch Hu. Ça c'est extraordinaire. Imaginez-vous, quand vous lisez une page de Gemara, vous dites je suis en train d'être le vecteur d'Akadosh Baruch Hu. Alors c'est une notion qui est pour l'instant très subjective, très abstraite, qu'on a besoin de développer, parce que ça veut dire quoi je suis le vecteur d'Akadosh Baruch Hu. Alors on va lire dans les mots. Vous allez voir tout sera clair, Bezrat Hashem. Pardon. Donc il dit. Ou Vibrinat, venez, on va prendre à la fin de la deuxième ligne. Hi Vibrinat, Amshachat, Amshacha, Milmaala, Lemata. Celui qui a réussi à faire cette teshuva de second niveau, de haut niveau, ça veut dire la teshuva dans laquelle il sent que c'est pas qu'il y a Dieu et moi, c'est que tout ce que j'ai, je le donne à Dieu. Je calcule pas. C'est pas qu'il y a ma femme et moi. C'est, on forme un seul couple, on forme une seule entité. Vehayu, le Basar, Echad. C'est ça même l'image du mariage, c'est qu'ils deviennent une seule chair. Donc c'est la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'une personne a compris, ça c'est un déclic, que Dieu et moi, ça, on forme une seule chose, alors à ce moment-là, Ibiprina Tamshacha Milmal Alemata, alors à ce moment-là, la liaison qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et lui, c'est une liaison qui a Milmal Alemata, c'est-à-dire du haut vers le bas. C'est pas que je me dis, oui, j'étais gentil avec Dieu, j'ai essayé de lui donner quelque chose. Pas du tout. C'est, je dis, Dieu est en train d'envoyer des signaux, et moi, je suis son vecteur, moi, je suis son messager. Alors, s'il veut, ce qu'il veut faire passer par moi, il a qu'à le faire passer. Comment je sais donc, liot, dvar, hachem, mamash, befiv. C'est que la personne, à ce moment-là, a la sensation, vous inquiétez pas, on va développer ça dans la suite, a la sensation d'avoir la parole de Dieu dans sa bouche. Vous savez, c'est comme Moshe Rabbeinu. Lorsque Moshe Rabbeinu est dit dans la deuxième, dans ce qu'on dit aujourd'hui, dans le deuxième paragraphe du schéma, il dit, si vous écoutez ma Torah et mes mitzvot, je donnerai la récolte dans ton champ. La Gemara pose la question, il dit, comment Moshe Rabbeinu, il peut dire, je donnerai la récolte dans ton champ? Il dit, je donnerai, enfin, je veux dire, on comprend qu'il veut dire qu'il parle à la place de Dieu, mais concrètement, il l'a dit. C'est-à-dire quoi, quand Moshe Rabbeinu, il vient, il nous dit, si vous écoutez ma Torah et mes mitzvot, je donnerai la récolte dans ton champ. La Gemara pose la question, elle dit, mais non, c'est pas comme ça que Moshe Rabbeinu aurait dû dire. Si vous écoutez la Torah et les mitzvot de Dieu, Dieu donnera la récolte dans votre champ, dans vos champs. Là, c'est comme ça qu'il faudra dire. Et de là, la Gemara, elle apprend, traité Sota, si je ne me trompe pas, elle dit que de là, on apprend que Moshe Rabbeinu, Shrina, Medaber, et Fitor Grono. Que Moshe Rabbeinu, comment il pouvait se permettre de parler comme ça? Parce que Moshe Rabbeinu avait la sensation que la Shrina parlait au travers de sa gorge. Et il n'était pas du tout prétentieux quand il faisait. C'était naturel pour lui. Parce qu'il est arrivé à un tel niveau qu'il se sentait être le messager d'Akadosh Baruch Hu, et que pour lui, c'est même plus de l'orgueil. Eh ben, quelquefois, c'est un niveau qu'on peut des fois obtenir. D'accord? Et il va expliquer comment. Quand on étudie un Dvar Torah, et quand on va répéter un Dvar Torah, on va avoir l'impression qu'on est en train d'être le vecteur d'un message, mais que c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est pas simplement que, ah, j'ai compris, bravo, j'ai essayé de capter un message. Non. Je suis le... Ça veut dire que Dieu m'a utilisé pour faire passer un message. Et quand on se perçoit comme ça, vous comprenez que c'est complètement autre chose. C'est pas que j'ai le sentiment que j'ai donné quelque chose à Dieu. J'ai le sentiment que je suis un pion. Que je suis un pion. Et que le pion, ben, c'est, il y a un maître qui bouge le pion comme il veut. Donc c'est complètement une autre manière de voir les choses. Il va amener encore d'autres versets qui nous illustrent cette sensation que la personne va avoir. Et là, vous comprenez que là, on parle plus de la teshuvah, hein, la teshuvah en amont. Là, on parle en aval. C'est déjà ce qui se passe après la teshuvah. Comment on doit faire le service après-vente? On va développer. Ou comment chez Katoum, comme c'est écrit dans Isaïe, Dieu il dit, va asim devaray befira. Dieu il dit, je mettrai mes paroles dans ta bouche. C'est quoi Dieu dit, je mettrai mes paroles dans ta bouche? Ça veut rien dire, c'est n'importe quoi. C'est a priori, ça veut rien dire. Ça veut dire que Dieu met les paroles dans la bouche. A priori, les paroles, c'est insignifiant une parole. Mais c'est comme si, imaginez-vous, vous avez un juriste qui vous dit « Je mettrai mes paroles dans ta bouche ». Mais les paroles, c'est rien. Les paroles, c'est un vecteur. Ce qui compte, c'est le message. Donc, on n'en a rien à faire des paroles. Pourquoi on nous donne de l'importance aux paroles? Comment ça se fait que dans la Torah, ça c'est très important aussi, comment ça se fait que dans la Torah, quand lorsque vous rentrez dans une yeshiva, vous entendez les gens en train de crier comme des malades? Ils parlent. À tel point qu'il y a un avis dans Shulchan Aruch qui pense que si on étudie la Torah en pensée, on n'est pas quitte. Il y en a qui pensent que la Torah écrite, si on l'a étudié en pensée, si on l'a lu en pensée, c'est bon. Mais la Torah orale, si on l'a pas lu, il y en a qui pensent que si on l'a pas lu verbalement, on n'est pas qui, on n'a pas yotzé. Ça veut dire qu'il y a une notion de dvar Torah. Dvar, ça veut dire quoi dvar? Dvar dibour, de parler. Mais pourquoi c'est important de parler? Finalement, le plus important, c'est quoi? C'est le message. Qu'est-ce qu'on en a à faire s'il y a les mots qu'il n'y a pas derrière? Comment ça se fait? Comment ça se fait que lorsqu'une personne, par exemple, est en train de lire la Torah, dès qu'il fait une petite erreur sur un mot, tout le monde lui saute dessus? Il a altéré le message. C'est pas la fin du monde. Qu'est-ce que tu lui veux? Pourquoi on fait tellement attention aux mots? Comment ça se fait? C'est parce que, finalement, on a le sentiment que on n'est pas là simplement en train de répéter un message. Lorsqu'on répète un Dvar Torah, on est le messager d'Akadosh Baruch Hu à ce moment-là. On répète un Dvar Torah, c'est-à-dire comme il dit ici, Va'asim Dvarai Beshicha. C'est Dieu qui est en train de mettre sa parole dans ma bouche. Ça veut dire que la parole est très importante. Quand je vais dire quelque chose, je suis en train de matérialiser la chose, ce qui n'était pas le cas dans la pensée. Et Akadosh Baruch Hu dit, je veux que tu le dises dans tes mots. Que tu le dises. Pourquoi je veux que tu le dises? Parce que lorsque tu vas dire la chose, tu vas la matérialiser et tu vas être mon messager. Voilà pourquoi il y a une importance d'un Dvar Torah. D'accord? De parler la Torah. Pas seulement d'étudier en pensée. C'est pour ça que, au Hashem, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui étudient des cours qui écoutent des cours dans cassette, ou un CD ou un P3 dans les voitures, c'est très bien. Pourquoi pas, au Hashem. Mais, ça c'est premier stade, c'est Teshuvah Tata. Teshuva il a A, parler.
Oui, mais là d'accord, on fait en bas ici alors.
Attends, je vous brise, moi. D'accord. Après.
C'est comme une cassette là.
T'inquiète.
C'est Mehdi qui fait.
D'accord.
Oui, mais Teshuva, il
a.
Il faut savoir quoi faire en Teshuva il a. D'accord. Donc il dit comme ça, ça veut dire que c'est très important de parler. Vous posez des questions par exemple.
Faut savoir.
D'accord. De parler. Pourquoi est-ce très important de parler? Parce que quand on parle, on est le vecteur d'Akadosh Baruch Hu. On est le messager d'Akadosh Baruch Hu. Dvar Torah. Voilà pourquoi il y a une importance d'un Dvar Torah. Pas seulement d'étudier la Torah en pensée, de la dire verbalement. Et c'est la raison pour laquelle quand on fait notre tfila, comment on la fait? Vous savez qu'il y a des religions dans lesquelles on fait la tfila en pensée. Enfin, leur tfila, leur prière.
Méditation.
La méditation. Il y a beaucoup de religions dans lesquelles on ne parle pas. Et au contraire, la parole altère le message. On part de la base que lorsqu'on va exprimer quelque chose en parole, forcément le message va perdre de sa valeur. Quand ça reste dans la pensée, quand ça reste abstrait, il reste plus fort. Pourtant, dans la Torah, c'est exactement le contraire. On dit, la pensée pour nous, c'est très intéressant, mais nous, ce qu'on veut, c'est concrétiser. Pourquoi? Parce que c'est exactement pour ce qu'il est en train d'expliquer ici. Parce que quand on va dire quelque chose dans les mots, on va concrétiser, on va être le messager d'Akadosh Baruch Hu pour faire descendre un message de manière physique dans le monde. Donc on va matérialiser le message. Il y a aussi un autre verset dans Shir HaShirim. Vimino techabekeni. Shir HaShirim, dans Shir HaShirim, là-bas, Shlomo HaMelech, le roi Salomon, il dit que lorsqu'on fait une mitzvah, qu'est-ce qui se passe? Il dit que Smolo Tachat Leroshi, donc il parle de la relation d'amour qu'il y a entre Israël et Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit Smolo Tachat Leroshi, sa main gauche se trouve sous ma tête, comme lorsqu'on enlace quelqu'un. D'accord? Sa main gauche se trouve sous ma tête, Vimino Techabekeni, et sa main droite m'enlace. D'accord? Donc c'est quoi la main gauche, c'est quoi la main droite? Ben la main gauche, ça correspond aux mitzvot négatives. Et la main droite, ça correspond aux mitzvot positives. Et vous voyez bien que quand il parle d'une mitzvah, comment il a illustré la mitzvah? Il a illustré la mitzvah comme si je suis en train d'enlacer la personne. Qui va pas en train d'enlacer la personne? Ça nous a l'air très gamin. Mais pas du tout. Nous, on pensait qu'on s'attache avec Akadosh Baruch Hu dans la tête. C'est quoi enlacer? Enlacer, c'est un peu... Comment on dit? Ah oui, c'est pas Miami. Oui, ça veut dire quoi quand on Shir HaShirim, quand on dit qu'une mitzvah, quand on fait une mitzvah, on enlace à Kadosh Baruch Hu? C'est gamin. C'est quoi enlacer? On n'enlace pas à Kadosh Baruch Hu, on s'attache à lui, on va comprendre ce qu'il voulait dire. C'est gamin, pourquoi tu me dis enlacer? Ça veut dire pourquoi donner un caractère physique à cette relation? Maintenant on comprend. Parce que le caractère le plus important de cette teshuvah il a, c'est le fait de donner un caractère physique à cette teshuvah. Que dans ma tête, ma parole, c'est la parole de Dieu, je suis en train de répéter un Dvar Torah. C'est pour ça que dans la Torah, on accorde une grande, grande importance à tout le physique qui est lié autour des mitzvot. Par exemple, lorsqu'une personne vous dit un mot de Torah, d'accord, même s'il ne comprend pas ce qu'il dit, on dit c'est déjà très bien qu'il l'ait lu. Pourquoi? Lorsqu'une personne entend un Dvar Torah, vous avez des fois des gens qui viennent au cours, ils sont endormis au cours, a priori ils n'ont rien entendu. Donc on dit à quoi c'est ça, pourquoi il est venu? Ou bien il y a des fois des gens qui ne s'endorment pas, d'accord, des fois des gens qui ne s'endorment pas, mais qui n'ont rien compris. Ça nous arrive à tous de comprendre la moitié, ou surtout quand le prof il est pas clair, comme ça arrive très souvent ici, d'accord? Donc, tu dis, à quoi ça sert? Pourquoi d'accord? Ouais. Donc je pose la question, je dis, à quoi ça sert? Pourquoi on est venu? D'accord? Bien sûr. Alors, pourquoi on est venu? D'accord? Pourquoi on est venu? À quoi ça sert? Alors, la réponse est la même chose. C'est que, il y a des gens qui pensent que quand on vient à un cours de Torah, c'est comme si on vient à la fac. À la fac, celui qui vient et qui a rien compris, on lui dit, écoute, tu perds ton temps.
On prend des notes.
On prend des notes, on enregistre, ta-ta-ta-ta. D'accord? C'est-à-dire, si t'es venu, t'as rien compris, t'as raté ton année, t'as tout perdu, tu perds ton temps. Change de corps de métier. D'accord? Change. Tu vois bien que ça marche pas. Dans la Torah, c'est pas comme ça. Quelqu'un, il vient tous les jours au cours, il voit à chaque fois qu'il comprend pas. Certains, il dit, bon, on va changer. Ça y est, j'arrête, c'est fini, j'arrête. On lui dit, non, continue à venir. Pourquoi tu veux que je continue à venir? Comment ça se fait? Parce que, encore une fois, c'est là le message extraordinaire. C'est que la force d'un Dvar Torah, c'est quoi la force d'un Dvar Torah? C'est que qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, même si on ne le comprend pas, le fait qu'on a été témoin et qu'on a matérialisé la parole d'Akadosh Baruch Hu, ça fait quelque chose. J'ai lu la semaine dernière quelque chose de rabbi précédent, dans l'Écouté d'Ibourim, qui est traduit en français d'ailleurs, quelque chose qui m'a marqué, quelque chose de très fort. Il dit la chose suivante. Il dit que lorsqu'on a étudié, ici-bas, on a assisté à des cours, on a étudié quelque chose qu'on n'a pas compris. J'ai lu quelque chose, j'ai pas compris. Mais je l'ai quand même étudié. Et bon, je suis un peu dégoûté, j'ai perdu mon temps. J'aurais pu étudier quelque chose que j'ai compris. Bah écoutez, ce qui est profondément rassurant, c'est que il dit là-bas, hein, il amène des preuves, que lorsque on va arriver au Gan Eden, Bezrat Hashem, on passera par les étapes qu'il faut, mais on arrivera au Gan Eden. Lorsqu'on arrivera au Gan Eden, et ben là-bas, hein, on nous fera réviser tout ce qu'on a étudié en bas, sauf que là, à ce moment-là, on comprendra. Mais attention, en haut, on pourra réviser uniquement les matières qu'on a apprises en bas. Voilà, ça c'est la restriction.
Comprise ou pas.
D'accord. Et, bon, enfin... Voilà, exactement. Exactement.
Donc c'est pas grave, d'accord. Si tu restes à la fac et tu fais toutes les branches, ça va.
Je vais raconter une petite histoire, je sais pas si tu vas la raconter, mais bon, je vais la raconter. C'était quelques temps après qu'il y avait un grand rave. Ça fait une quarantaine d'années. Il y avait un grand rave, Abdebrek, qui était Niftar. Enfin, peu importe son nom. Il était Niftar. Et bon, un grand rave, qui était pas très loin d'être assis, mais bon, un très grand rave, que tout le monde respectait, tout le monde était assez éveillé, etc. Quelques jours après son enterrement, il y a une fois un rave de la yeshiva Chabad de Tel Aviv. Il y avait une grande yeshiva. Ah, maintenant, elle est à Loud, cette yeshiva. Donc, c'est avant que Tel Aviv devienne...
C'est une mégalopole.
Alors, donc il y a un rave de la yeshiva. Il y a un rave de la yeshiva qui a fait une fois un famringen. Et dans un famringen, apparemment, il avait dit bien dit le chayim. Et il avait dit, un simple élève de notre yeshiva, lorsqu'il arrivera au Gan Eden, ira plus loin que ce rave qui est Niftar. Et bon, vous savez, ce rave-là, enfin, il a dit comme ça, ben bon, il l'a dit concrètement, il l'a dit, et ça a fait du bruit. Ça fait énormément de bruit. Comment on peut parler comme ça, un grand rave qui est Niftar? Bon. Alors, le rabbi l'a raconté par la suite, je sais pas si tu connais les noms. Le rabbi l'a raconté par la suite que, c'est le rabbi dans un fabricant, quelques semaines plus tard, il dit que la poste des États-Unis, s'est enrichie à cause de celui-là. Pourquoi? Parce qu'il a reçu énormément de lettres. Des gens qui se plaignent. Ah, comment on peut dire ça, etc. Alors il a dit, bon, c'est sûr que cette personne-là n'aurait pas dû dire ce qu'il a dit, bon, parce que ça se fait pas, c'est pas un kavod, mais il a dit quelque part, il a pas tort. comment quelque part il a pas tort? Bah, il a dit, c'est pas compliqué, il a dit, quand on arrivera en haut, on fera réviser à la personne ce qu'elle a déjà étudié. Donc, si tu as un simple élève de Yeshiva qui a appris des matières qu'un autre n'a pas apprises, donc bah, ces matières-là, l'autre, il les étudiera pas, donc sur ça, il aura plus. Mais bon, c'est clair qu'il aurait pas dû dire ce qu'il a dit. Donc je reviens à ce que je suis en train d'expliquer ici. Voilà l'importance d'un Dvar Torah. L'importance d'un Dvar Torah, c'est quoi? C'est que quand on matérialise quelque chose, il y a quelque chose qui se passe. Même si nous, on voit pas. On voit pas ce qui se passe. Quelque part, on n'a peut-être pas compris. On s'est endormi, on a essayé, on n'a pas encore mangé, on a mangé, mais on a la tête ailleurs. Pas grave. Ce qui compte, c'est qu'on est venu. Le'avi sachar l'imvi ehem, comme a dit là-bas l'Agmara. L'Agmara dit qu'il y a des gens que c'est quoi leur seul mérite d'être venu à la synagogue? C'est le fait qu'ils sont venus. Ah, il n'y a pas d'autre mérite, parce qu'ils ont rien compris. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mérite d'étudier la Torah, il a rien compris, il n'a rien fait. Il a endormi, ou bien même il a discuté. Vous avez des gens qui viennent à la synagogue, viennent à un cours, et après, au lieu d'assister au cours, ils n'assistent pas, il va aller discuter. Il dit, mais attends, pourquoi t'es venu? Alors, il est venu pour rien. Eh ben non. La Gemara dit, celui-là, il a un frein parce qu'il est venu. Donc il a matérialisé chaque pas qu'il avait pour venir, d'accord? Chaque accès à coup d'accélérateur qu'il a mis dans sa voiture pour venir, ça fait quelque chose. Parce qu'il a matérialisé sa volonté de vouloir venir à un shiur de Torah. C'est très rassurant, ça. Bon. Alors, je reprends dans les mots. Voilà pourquoi, dans Shir HaShirim, Shlomo HaMelech, lorsqu'il parle des mitzvot, il nous parle d'une manière qui est très très gashmi, très matérielle, très physique, très matérialiste. Il dit « Vimino, Sechabekeni », que la main droite d'Akadosh Baruch Hu m'enlace, c'est physique. Parce qu'on est en train de matérialiser la relation qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Bigmilut Rasadim, de Chesed, de Roa, Yemina, puisqu'on sait que Chesed, donc toutes les mitzvot sont liées, c'est comme Chesed sont liées au de Roa en hébreu, c'est en araméen, pardon, vous savez, en araméen, hein, c'est pas compliqué, en araméen, le Dalet s'interchange avec le Zayin. Donc vous avez de Roa, donc on échange au lieu de Dalet, c'est un Zayin, de Roa en hébreu, c'est quoi? C'est le bras. Donc, Chesed, de Roa, Yemina. Avec ça, on comprend comment ça se fait que quand on dans la Kabbalah, très souvent, quand on essaye de nous parler d'Akadosh Baruch Hu, on nous parle de choses matérielles. On dit par exemple le bras d'Akadosh Baruch Hu. Mais même dans la Torah, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans la Torah, très souvent, lorsqu'on veut nous parler d'Akadosh Baruch Hu, on dit la main de Dieu, ou bien l'action de Dieu. C'est très matérialisé. Et honnêtement, c'est un peu dégradant, parce qu'on se dit, attends, d'Akadosh Baruch Hu, on s'attendait à quelque chose de plus abstrait, d'accord, de plus spirituel. C'est-à-dire quoi, la main de Dieu? Alors, tu as raison. Rashi dit que pourquoi on parle de la main de Dieu? Parce qu'on est obligé pour qu'on comprenne, d'accord. Mais au lieu de parler de la main de Dieu, on aurait pu parler par exemple de la logique de Dieu. Mais pas de la main c'est physique. On parle très souvent de choses physiques. C'est fait exprès, ce qui explique ici. Parce que le but de la Torah, c'est justement de matérialiser. Aval mais Adam atarton tsarich lelech mimadriga lemadriga mimata lemad mimata lemala ou prinat shuva il a veitabkud rukha bekavanatalev bitfila. Voilà. On dit comme ça, dit, mais ça, cette situation que je viens de dire, et là vous allez voir comment on va parler de manière concrète, ça vient pas tout seul. Vous croyez que comme ça je me lève un jour, je commence à étudier la Torah et ça y est, je sens que c'est Dieu qui parle. Ah, certainement, si je me lève et que j'ai le sentiment comme ça, certainement je suis shooté. Ou je suis mal réveillé.
On est arrivé à la Teshuvah là.
D'accord, oui, mais attends. Je me lève un matin, j'ouvre ma Gemara, j'ouvre mon Tanya, je me mets à lire, je dis, waouh, je sens que Dieu il parle en moi. Et c'est comme je dis la dernière fois, il y a quelqu'un qui a sonné au Beit Rabat là-bas, il a dit, je sens que je suis Mashiach. Bon. D'accord. Bon, je continue à ressentir.
On a les noms. Hein,
tu te rappelles? Alors, je lui ai dit, ah oui, prouvez-moi que vous êtes Mashiach. Il m'a dit, oui, je peux faire tomber la pluie, je peux amener la pluie et le beau temps. Je lui ai dit, c'est un jour où il y avait un soleil extraordinaire. Je lui ai dit, alors, ramenez-moi la pluie tout de suite. Il dit, non, aujourd'hui, je peux pas. Je lui ai dit, d'accord, revenez demain, alors. Quel est l'heure 25? C'est David qui l'a envoyé en plus.
Moi?
Ah, c'est Daniel qui l'a envoyé, Daniel. De mémoire béni. Ah, il doit avoir quel âge? Il doit avoir 25 ans, 30 ans? Je sais pas, enfin, il avait une théorie, il doit avoir 25, 30 ans. Oh. Alors, si quelqu'un il se lève le matin et dit, ça y est, Dieu il parle en moi. Il dit, attends, d'où tu sais que Dieu il parle en toi? Ça vient pas comme ça. Il y a une préparation par derrière. Il y a une préparation, on doit d'abord se préparer. Comment on se prépare? Et ça veut dire, et là, c'est extraordinaire ce qu'explique l'Admor HaZaken. Qu'est-ce qu'on a expliqué? Qu'est-ce que j'ai expliqué au début du cours? J'ai expliqué que, dans la vie, c'est soit le haut qui descend vers le bas, soit le bas qui monte vers le haut. D'accord, je sais que c'est un pléonasme, mais quand même il faut bien préciser. C'est soit le haut qui descend vers le bas, soit le bas qui monte vers le haut. On est d'accord. Maintenant, on a dit que une personne qui arrive à un niveau de Teshuvah Ila'a, c'est quoi? C'est qu'il a l'impression, il a la sensation, d'accord, que Akadosh Baruch Hu est en train de s'exprimer par lui. Ça veut dire que c'est le haut qui est descendu vers le bas. On est d'accord. Mais ça vient pas comme ça. C'est pas tout seul. Comment ça vient? Alors, c'est qu'en vérité ici, il y a un principe de donnant-donnant. Mm-hmm. Donnant-donnant, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que moi, je dois montrer à Kadosh Baruch Hu que je vais vers lui, et lui, il va descendre vers moi. C'est une image que là, dans la Kabbalah, on explique, on dit c'est un petit peu comme si vous avez deux personnes, un qui est en haut de la montagne et l'autre qui est en bas de la montagne. Donc la question qu'on se pose, c'est, bah, est-ce que c'est celui qui est en bas qui va monter en haut, ou est-ce que c'est celui qui est en haut qui va descendre en bas? Ils doivent se rencontrer. La réponse que donne le Zohar, elle dit que probablement ce qui va se passer, c'est que chacun va faire un pas, et qu'ils vont se rencontrer à mi-chemin. Après maintenant, la différence, c'est où sera leur mi-chemin. Ah oui, parce qu'il y en a peut-être qui va aller un peu plus doucement, l'autre qui ira un peu plus vite, trois quarts, un quart, etc. Ça c'est la marge, ça dépend de... Il y a des gens qui ont un peu plus d'épreuves, donc ils doivent monter trois quarts, et après le dernier quart, il arrive. Il y a des gens que Dieu leur fait la majorité du boulot, donc eux ils montent un quart, après Dieu il était déjà là. Bon, mais tout le monde doit faire un pas. Tout le monde doit faire un pas, et il explique ici que ce pas, on le fait particulièrement, écoutez bien, dans la tefila. Mm-hmm. Aujourd'hui, on va parler de la tefila. Particulièrement dans la tefila. Et Bezrat Hashem, le Shabbat matin, donc comme on a fini ce qu'on avait, on a fini le cours sur la Teshuvah, on va commencer maintenant, le Shabbat matin avant la tefila, un cours sur la tefila, à 9h. Et Avner qui vient. À 9h.
Petit coup de pub.
Alors, obligé. Alors, c'était une petite... On va faire donc un cours sur la Avodat Hatfila. Bon. Shabbat.
Ouais.
Shalom. Alors, ça c'est particulièrement dans la Tfila. Dans la Tfila, c'est là qu'on monte à Kadosh Baruch Hu, qu'on est en train de faire un pas vers lui. Parce que si je vous pose la question, d'après vous, la Tfila c'est le haut vers le bas ou le bas vers le haut?
C'est le bas vers le haut.
Bon. Je vais simplifier ou compliquer. J'ai la Tfila et la Torah. J'ai l'étude de la Torah et j'ai la tefila. Alors, lequel est du haut vers le bas, lequel est du bas vers le haut?
La tefila, c'est le bas vers le haut, la Torah, c'est le bas vers le haut.
Pourquoi? Explique-moi pourquoi.
Mais non, la Torah, c'est le haut vers le bas, parce que c'est le message de Dieu qui descend vers le haut.
D'accord. Et la tefila, c'est quoi?
C'est nous qui aspirons à...
Exactement.
On est dans le questionnement.
C'est quoi la tefila? La tefila, il y a des gens qui... C'est très important à dire ça. Il y a des gens qui pensent que c'est quoi la tefila? Dans la tefila, on est en train de lire un texte, d'accord? Et on est en train d'allumer le bouton de la douche, tu vois. Après, t'as une douche qui arrive, donc ça veut dire les gens ils pensent que la tefila c'est quoi? La tefila c'est on est en train de recevoir d'Akadosh Baruch Hu, ce qui est complètement faux. C'est pas du tout ça ce qui passe dans la tefila. La tefila c'est pas fait pour recevoir, la tefila c'est fait pour donner. On est en train de donner à Akadosh Baruch Hu, on est en train de parler à Akadosh Baruch Hu. Si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris à la tefila. La Torah c'est le contraire. La Torah, on est en train de recevoir ce que Akadosh Baruch Hu nous donne. C'est Dieu qui descend vers nous. Mais la tefila c'est le contraire. C'est le bas qui monte vers le haut. Et c'est pour ça que dans la tefila, pas tout le monde fera la même tefila. Parce que le bas vers le haut, il y a des gens qui montent plus vite, des gens qui montent moins vite, chacun a son rythme. On peut pas avoir les demandes, d'accord, on a, si tu veux, on a standardisé les demandes. On a standardisé. Mais ça change pas qu'on pourra jamais enlever le caractère personnel de la tefila. Jamais. Pourquoi? Parce que dans la tefila, c'est du bas vers le haut. Et quand c'est du bas vers le haut, t'en as un qui a une 2 chevaux, l'autre qui a un 4x4, et on monte pas à la même vitesse. D'accord? C'est comme ça. Après, avec le temps, il y a des upgrades, il y a des mises à jour, mais en tout cas, c'est pas la même chose.
Il y en a qui ont défusé.
Il y en a qui ont défusé, il y en a qui vont plus vite, il y en a qui vont moins vite, il y en a qui n'ont même pas commencé à monter. Vous savez, comme on dit raconte chez Racine, je l'ai raconté une fois cette histoire, mais j'ai raconté que le début, pas la fin. On raconte que, une fois, il y a quelqu'un qui a posé la question à un Racine polonais. Il a posé la question, il lui a dit, comment ça se fait que chez vous, la tefila, ça va très très vite. Très très vite. Vous foncez. Il dit, mais attends. Comment on pouvait foncer? Il faut aller plus doucement. Alors il a donné la réponse suivante. Je l'ai déjà raconté, je crois, il y a 2 ans. Mais la fin, je n'ai pas raconté. Il a dit, c'est très simple. Il a dit, c'est comme si vous avez un train. Imaginez-vous un train. Et dans le train, c'était apparemment un fléau à l'époque, dans le train, il y avait des fois des parasites qui montaient. C'est-à-dire qu'ils attendaient que le train commence à rouler un petit peu, pour que le contrôleur, ça y est, il est parti. Et une fois que le train commence à monter, il s'accroche au train. Bon. Donc nous, on ne veut pas que les parasites y montent, parce qu'ils n'ont pas payé. Alors il dit c'est très simple, il dit si le train il avance doucement, les parasites ils vont monter. Mais si le train il avance vite, quand le parasite va essayer, personne va essayer de monter parce qu'il sait qu'ils vont se casser la figure. Donc le racine il a répondu, il a dit c'est la même chose. Il a dit, nous c'est quoi les parasites? C'est les mauvaises pensées. Quand on prend son temps, etc., on prend le temps de voir ce qu'il y a à côté, ce qu'il y a à droite, ce qu'il y a à gauche, les parasites ils montent et t'as pas le temps de comprendre comment, tu te retrouves en plein milieu de ta mida à penser à tes affaires. Et dans le meilleur des cas. D'accord? Alors c'est dommage. Pourquoi? Parce que les parasites sont montés. Pourquoi les parasites sont montés? Parce qu'on est allé doucement. Mais il a dit, mais quand nous on va vite, alors je vais tellement vite, je suis focalisé sur ma route, je dois pas lâcher le volant, j'avance et les parasites n'ont pas le temps de monter. C'est ce qu'a répondu le racine polonais. L'autre, il a répondu, il a dit, oui. Ça, c'est ce que j'avais pas raconté. Il a dit, mais tout ça, c'est valable si on est déjà monté dans le train. Si on n'est pas monté dans le train et que le train fonce et que personne n'est monté dedans, alors parce que là, ni les parasites sont montés, ni nous on est montés.
Mais des fois on lui dit au conducteur du train, nous. Des fois ça nous arrive de lui dire au conducteur du train qu'il va trop vite.
On n'a pas eu le temps de monter.
Tu comprends? C'est ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, oui, ça c'est valable si on est déjà dans le train. Mais j'en ai pas dans le train. D'autres termes, si le train a déjà démarré, la tuile a déjà démarré, mais nous on n'est pas là. On n'a pas pris le train. Vas-y, fonce, tu fonces. Au contraire, plus vite il avance et moins vite tu pourras rattraper le train, c'est trop tard. Alors, ce que je vais expliquer ici, c'est la même chose. C'est quoi la tuile là? Le but de la tuile là, c'est quoi? Le but de la tuile là, c'est un travail personnel. C'est un travail personnel, c'est là qu'on est en train de faire le travail du bas vers le haut, d'accord? C'est là que mon esprit est en train d'aller vers l'esprit de Dieu, pour que plus tard, l'esprit de Dieu descendra vers le mien. C'est donnant-donnant. C'est-à-dire, si je fais pas d'effort dans la tuile là, je ne dois pas m'étonner comment ça se fait qu'après, quand j'étudie la Torah, ça marche pas. Ça m'intéresse pas. C'est donnant-donnant. Avec Akadosh Baruch Hu, c'est donnant-donnant. Ça veut dire que vous pouvez avoir des gens qui étudient la Torah toute la journée, mais comme un texte juridique, qui n'ont aucun sentiment de la gdoucha de la Torah. Pourquoi? C'est pas compliqué, parce qu'ils n'ont pas accordé assez d'importance à la tefila. Donc comme ils n'ont pas accordé assez d'importance, c'est très important, je suis en train de dire, comme ils n'ont pas accordé assez d'importance à la tefila, d'accord? Donc, automatiquement, lorsqu'ils vont étudier la Torah par la suite, la Torah sera un texte pour eux, un texte qui est comme un autre. C'est un texte, une science qui est très intéressante, mais on perd le caractère de la kdoucha, de la sainteté de la Torah. Si on veut sentir la sainteté de la Torah, si on veut sentir qu'on est dans le coup, il faut d'abord précéder ça de la tefila. C'est-à-dire quoi précéder de la tefila? Ça veut dire, moi je dois faire un pas vers Akadosh Baruch Hu. Sinon ça marche pas. Si une personne, c'est comme dans un couple, si une personne attend que sa femme arrive vers lui mais que lui fait aucun pas, il n'y a rien, il va rien se passer du tout. Et même quand sa femme fera un pas vers lui, il va rien ressentir. Ça, c'est ça le chidouche. Je dis pas qu'elle le fera pas. C'est que si lui ne fait pas un pas, même quand l'autre partie fera un pas, le pas ne voudra rien dire. Pourquoi il voudra rien dire? Parce qu'il n'y a pas de donnant-donnant. Dans la Torah, tout est donnant-donnant. C'est comme ça que ça marche. Donc, le bas doit essayer de monter vers le haut, et après, le haut descendra vers le bas. Et ça, c'est particulièrement dans la tefila. Ça veut dire que mon esprit, l'esprit du bas, essaye de s'attacher vers l'esprit du haut, et après l'esprit du haut fera Akadosh Baruch Hu descendra vers l'esprit du bas. Et ça, hein, faut comprendre que ça, c'est le travail en amont et en aval du Baal Teshuva. C'est constant ça. Parce que finalement, qu'est-ce qu'il a fait le Baal Teshuva? Lorsqu'il a fait Teshuva, c'était le haut vers le bas ou le bas vers le haut? Ben, naturellement, s'il a fait teshuva, c'était le haut, c'était le bas vers le haut. Lorsqu'une personne, il est très loin de la Torah. 400 coups, etc. Un jour, il décide, je retourne. Donc, s'il retourne, c'est quoi? Il a fait un retour, c'est-à-dire qu'il a fait le bas vers le haut. Très bien. À cada jour, t'as fait un pas, je fais un autre. Mais après, avec le temps, s'il recule, ben, Dieu aussi recule. Vous comprenez? Donc, ce processus de, je fais un pas, et Akadosh Baruch fait un pas, il doit rester constamment. Parce que si j'arrête de faire un pas et si je recule, Akadosh Baruch lui aussi recule. C'est donnant, donnant. Comment il dit, le prophète Yeshaya, il dit, Im tas veniyom, yomaim asveka. Si tu m'abandonnes un jour, moi je t'abandonne deux jours. Mais c'est pas parce que Dieu est méchant avec nous. Parce que, quand moi je recule d'un jour, Akadosh Baruch lui aussi recule d'un jour. Il n'y a pas de pause chez nous. Et des gens, ils pensent qu'on va en vacances, maintenant on met la Torah, pause. On revient, on reprend. D'accord? Mais il y a des gens qui pensent comme ça. Ils disent pas, on met en pause. Surtout quand c'était comme l'année dernière, tu vois, du style, voilà, tu reviens, c'est direct Rosh Hashanah. Non, c'est pas grave. On met en pause, on revient, et on relance le contrat.
Tu te donnes des vacances à ton yetzer.
Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Je peux parler je parle en général.
Ouais, ouais. D'accord.
T'as profité au moins? Bon, en bonne santé. Allez.
Mais c'est étonnant là, cette histoire de la tuila.
Il y a une rochma dans la
tuila. On avait vu dans le Tanya, on avait vu le contraire.
Oui.
On avait vu que lorsque tu dis la Torah, ton esprit, l'esprit de la Kadosh Baruch Hu, il rentre dans ta tête,
oui.
dans ton cerveau, dans ton sang, et que tout le sang il passe par le cerveau.
Oui, mais ça... pour avoir cette sensation-là, pour que Dieu descende vers moi et que quand j'étudie la Torah, réellement Dieu m'imprègne, il faut d'abord que moi j'ai essayé d'imprégner Dieu.
Mais quand tu rentres dans le texte sur la Gemara ou autre, que tu essaies de comprendre ce qu'il a
mais t'es pas en train de faire un pas vers Dieu du tout. Mais pas du tout. Mais pas du tout, du tout. Lorsque tu fais mais pas du tout, excuse-moi. Lorsque c'est un...
Je m'excuse.
Mais pas du tout.
Quand tu essaies de comprendre... Quand tu comprends le cas de son idée, tu essaies de comprendre sa pensée, tu fais un pas vers lui.
Tu sais pas comprendre ta pensée, t'essaies de comprendre parce que c'est intéressant, parce que tu veux comprendre ce qu'il y a écrit.
C'est intéressant.
Bon, c'est pas un peu, excuse-moi, moi que t'es un sadique, mais c'est pas
Oui,
Non, je suis très sérieux.
Ça... Non, moi aussi je suis sérieux.
Non.
On en parlait avec Guy. Il me disait, ouais, moi j'aime la Gemara, etc. Moi je lui dis, moi la Gemara j'aime pas, mais je fais parce que c'est mitzvah, d'accord? Il me dit, oui, tu te rappelles ou pas?
Tu as donné ton accord avant de raconter.
Il m'a dit, oui, mais il m'a dit, tu te rends compte? Tu te mets dans l'esprit des Rachamim, comment ils pensent.
Moi je vais t'expliquer le problème que j'ai. Moi je vais t'expliquer le problème que j'ai avec les gens qui étudient trop de Gemara. Écoute bien. Ouais. D'accord.
T'as pas de mémoire,
c'est tout. Non, c'est bon. Bon, peu importe qui a dit quoi. D'accord.
Rucha de Rucha, c'est ça, quand tu fais avec le Rabbi Lubavitch, quand on étudie la Torah, on s'attache au Rachamim.
Mais non, moi le problème que j'ai avec les gens qui accordent trop d'importance à la Gemara et qui accordent pas d'importance à la Chassidut.
Allez,
d'accord. Non, mais je vais vous expliquer ce que le problème. Le problème, c'est qu'après un certain moment, on perd l'akdusha de la Torah. Pour moi, c'est évident, c'est clair. Ça veut dire que lorsqu'une personne assiste, et c'est écrit comme ça, c'est écrit, le Zohar, il dit que lorsqu'on étudie la partie profonde de la Torah, on ne peut pas passer à côté du caractère Gdusha de la Torah. C'est-à-dire que même quand vous avez des gens qui étudient qui sont intéressés, ils viennent d'Arma à un cours de Kabbalah, d'accord? Mais quand on vient à un cours comme un cours de Tanya, c'est-à-dire on étudie la profondeur de la Torah, obligatoirement ça fait quelque chose, c'est sûr. Maintenant, qu'on le sent maintenant, ou dans un an, ou dans deux ans, ça je sais pas quand on le sentira. Mais c'est sûr que ça fait quelque chose. Ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas forcément le cas, d'accord. Quand on vient à un cours de Gemara, quand on vient à un cours de Halakha, je sais pas. Non, attention, j'étudie énormément de Gemara, c'est un grand kiff, attention.
Ouais,
ce que je veux dire ici, c'est que c'est pas pareil. C'est que pour pouvoir bien étudier la Gemara et pour avoir le sentiment qu'on est en train d'étudier la parole à Kadosh Baruch Hu, on est obligé de passer par une couche de tfila. Et pour faire une bonne tfila, pour comprendre ce qu'on fait, on est obligé de passer par une couche de chassidut. Aujourd'hui, c'est obligé. Parce que sinon, quand on étudie la Torah, on a le sentiment qu'on étudie quelque chose de...
On étudie
du droit. Alors, c'est vrai, il dit exactement ça.
Ah bah non,
c'est vrai que... Alors, attendez.
Où est-ce qu'il dit ça, alors? Je n'ai pas compris.
Deux secondes. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que, à l'époque, le Rabbi, il explique que... Parce que c'est lui qui m'a branché, là. Le Rabbi, il explique que dans les générations d'avant, les gens avaient une sensation de Kdusha automatiquement. C'est-à-dire que dans les générations d'avant...
Et nous, on a besoin du monde.
D'accord. Attendez. Dans les générations d'avant... La génération, ça veut dire il y a 300-400 ans avant le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov n'est pas venu pour rien. Avant la génération du Baal Shem Tov, les gens n'avaient pas besoin de toucher à la Kabbalah. Ils étudiaient la Halakha, et quand ils étudiaient la Halakha, automatiquement ils sentaient la Kdusha. Bon. Ils avaient ce pouvoir-là. Aujourd'hui, c'est plus possible. On le voit clairement. Vous avez des gens qui étudient la Torah toute la journée, mais dans la vie de tous les jours, mais c'est des gens qui ont un comportement exécrable. C'est horrible. Oui, comment ça là, se... non, mais... Parles... non mais comment ça se fait
là, tu parles
non, mais...
de cohérence.
Mais c'est de ça que je parle.
Tu parles de cohérence.
Comment ça se... mais c'est pas cohérent, il y a un problème. C'est... La réponse est là. Parce que on n'a pas parce que quand on fait pas un pas vers Akadosh Baruch Hu au travers de la tfila et au travers du temps qu'on va passer, peu importe après le texte qu'on va étudier, si c'est Nefesh HaChaim ou Tania, etc., peu importe. Mais quand on passe pas du temps pour penser comment Man Neshama doit s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, et que constamment c'est qu'est-ce qu'a dit la Gemara, qu'est-ce qu'a dit la Gemara, on passe à côté de la plaque à tous les coups. C'est très important, c'est pour ça que c'est très très important de passer du temps pour penser à la manière comment on doit s'attacher à Kadosh Baruch Hu. On connaît cette histoire avec cette histoire qu'on raconte avec j'ai oublié un des grands du Moussard, qu'une fois comment il s'appelait, oh, j'ai oublié son nom. On raconte qu'une fois il y a quelqu'un qui est venu le voir et qui lui a dit j'ai une demi-heure par jour pour étudier. Mais non, soit j'étudie un texte de Moussard, enfin des textes dans lesquels on pense à son avancée personnelle. Soit j'étudie la Gemara. Qu'est-ce que j'étudie? Bien sûr, il s'attendait à ce que... Il s'attendait à ce que l'autre lui dit, bon, ben, si t'as pas de temps, il faut étudier la halakha, c'est plus important. Il a répondu non. Mais tu vas étudier le Moussard. J'ai entendu aussi cette histoire avec un chassid. Tu vas étudier, donc ça veut dire un texte dans lequel tu apprends comment tu dois avancer personnellement. Et quand tu vas étudier ça, tu vas découvrir que t'as beaucoup plus qu'une demi-heure dans la journée. Vous avez vu la chorma? Tu vas étudier, et lorsque tu vas étudier ça, tu vas découvrir que tu as beaucoup plus de mémoire dans la journée. Ça veut dire que c'est très important de faire un pas vers Akadosh Baruch Hu. C'est exactement ça ce qu'il est en train de dire ici. Non, c'est pas grave, c'est avant. Bon, peu importe le nom, c'est le message qui est important ici. Donc voilà, je reprends dans les mots maintenant. On va reprendre depuis Aval, Adam, Atarton. D'accord? Et on va montrer à Guy comment c'est écrit dans les mots. Alors, Aval, Adam, Atarton. Aval, Adam, Atarton. Alors, non, c'est pour me faire parler. Aval, mais Adam Atarton, c'était une pièce. Adam Atarton, Sarich Leler, mi Madriga, le Madriga. L'homme qui est en bas, c'est nous, l'homme qui est en bas. C'est pas né de Tzadikim, d'accord? Sarich Leler, mi Madriga, le Madriga. Croyez que c'est du jour au lendemain, comme ça, que je parle et je dis, ça y est, quand j'étudie la halakha, c'est Dieu qui parle dans ma bouche. Je suis shooté, je suis ma boule dans ce cas-là, je suis à côté de ma plaque. Ou bien je suis encore tout chaud, je viens de commencer. Quand Mimata les mal. Donc il dit Tsarich l'élève Mimadrega les Madrega, Mimata les mal. Il doit faire un pas du bas vers le haut. Hi prinat shuva ilaha veidabkut rucha berucha. Écoutez bien ce qu'il dit ici. Bekavanat. Ok. Donc kavanat alev bitfila. C'est la kavana qu'on doit avoir dans la tfila. Et il explique dans les mots. Il dit, ou bifrat, particulièrement, bikriat shema ou bichotah. Écoutez bien, c'est très important ce qu'on est en train de dire. Particulièrement, lorsqu'on fait le kriat shema, comme on va faire tout à l'heure. Voilà, si vous n'avez pas fait vite. Ou bichotah et ses brachot. Avoir une kavana particulière. Kavana de quoi? Kedé lomar, pour dire, ve'afta, roulé, etc. Bechol levavra, ou bechol nafshira vechoulé. Pour dire, tu aimeras Hachem ton Dieu. Ou bechol nafshira, donc de tout ton cœur. Be'emet la amito. D'accord? Alors, pas mito, comme mito en français. Be'emet la amito, ça veut dire, non, en vrai de vrai. C'est très difficile. Quand je fais un kriyat shema, je lis, je dois aimer Hachem, je dois l'aimer, bechol de tout mon cœur, de tout mon âme, de toute mon envie. Est-ce que réellement je le pense? Be'emet la amito. Pourquoi il dit ici be'emet la amito? Emet la amito en hébreu, ça veut dire quoi? Ça veut dire vrai de vrai.
La vérité vraie.
C'est pourquoi la vérité vraie? Pourquoi il y a une vérité qui n'est pas vraie? C'est très simple, parce que, si je vais dire j'aime Akadosh Baruch Hu, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est forcément vrai, parce qu'au fond de moi je l'aime. Mais est-ce que c'est vrai de chez vrai? Ça c'est pas sûr. Vrai de chez vrai, ça veut dire que la chose est vraie et que je la pense. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, c'est comme si je vous dis...
Mais de ton cœur tu peux,
d'accord? Oui, mais attendez, ça veut dire quoi? C'est comme si je te dis par exemple, tu sais quoi, l'Admour HaZaken a raison. Voilà, je dis, l'Admor HaZaken, ce qu'il a écrit, c'est extraordinaire, il a raison. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Oui, c'est vrai ce que je dis. Mais est-ce que c'est la vérité de la vérité? Pas forcément, parce que pour que ce soit la vérité de la vérité, il faut que moi je sois convaincu. Là, on pourra dire que ce que j'ai dit, c'est vrai, et que moi, je suis persuadé que j'ai dit un vrai message. Si c'est pas le cas, bah dans ce cas-là...
Comment tu peux être persuadé que je dis un vrai message?
Très bien. C'est tout le contraire du Emet. Le Emet, c'est même si je ne prends pas conscience de la vérité.
Exactement.
La vérité est là.
Elle exactement. Mais la question qu'on se pose maintenant, et c'est ça le rôle de la tfila, le rôle de la tfila, tu as raison, c'est pour la Torah ça. Le rôle de la tfila ici, c'est émettre la amito. Ça veut dire, je dois réaliser comment ce que je suis en train de dire, non seulement c'est vrai, mais je pense que c'est vrai.
Et ça change quoi, si je pense ?
Mais ça change que quand je suis en train de faire un travail sur moi, quand je suis en train de faire un travail sur moi pour faire un pas vers Akadosh Baruch Hu, je fais un pas vers Akadosh Baruch Hu. Et puisque je fais un pas vers Akadosh Baruch Hu, automatiquement, Akadosh Baruch Hu fait un pas vers moi, Hazak. Et ça veut dire quoi qu'Akadosh Baruch Hu ? Viens, on va mettre une petite couche de boucha là, parce que sinon...
Je vais travailler ce soir.
Ah, je suis
Razak, Razak. Bon. Elle est congelée par contre. Non mais elle est congelée.
On va la décongeler.
On va laisser tomber ton café, déjà. Merci beaucoup.
Mets-le dedans. Ah, David, c'est... Attends. Bon, habo comme ça. Comment tu vas la...
Non, non, tu la bois maintenant. Tu la demandes.
Elle va exploser, exploser. Ah, bien sûr.
Ça explose.
La limite. Le
robinet d'eau
chaude.
Oui, direct dans le truc, ça
explose.
D'accord.
Moi aussi, je vais prendre. Moi, tu
veux. Moi, je vais les
aider. Bon. Alors, on y va, monsieur.
Par contre, le but, c'est de faire descendre le haut vers le bas.
Non, le but, c'est les deux.
C'est
le but, c'est le mariage.
C'est dans les deux.
Pour avoir un mariage, il faut que l'homme. Pour avoir un mariage, il faut que l'homme aille vers la femme et que la femme aille vers l'homme. C'est comme ça. S'il n'y a pas les deux qui font un pas. On perd son temps, ça sert à rien, ça finira par un divorce.
C'est en train de dire
c'est sûr.
Si on pense que ce qu'on dit
c'est vrai.
C'est vrai.
C'est vrai.
Ça veut dire quoi hein? Ça veut dire quoi hein?
Pas
ça veut dire que pas... Non mais c'est vrai, finalement, est-ce que vous avez pas remarqué des fois dans le Tania, on essaye de se persuader, d'accord? Écoutez bien, c'est très important. Je pense que c'est un cours de base ça aussi, ce cours. Hein. En ce moment, on fait des cours de base.
Non,
c'est très important, regardez. Dans le Tania, on passe beaucoup de temps des fois à expliquer des concepts, je veux dire à expliquer la véracité de certains concepts, par exemple à expliquer comment Akadosh Baruch Hu est présent dans notre vie, comment le concept est réellement vrai, on passe beaucoup de temps pour ça. Finalement, on peut se poser la question, on peut se dire, mais attends, mais pourquoi tu perds ton temps pour ça? De toutes les façons, je crois en Dieu, je sais que ce qui est écrit c'est vrai, pourquoi tu as besoin de m'expliquer que c'est vrai? Je suis déjà convaincu, t'es en train de vendre de la glace au... D'accord, aux Esquimaux, comme... Bon.
Tu vends du sable au sable.
Bah oui, ça marche pas, c'est n'importe quoi. Et là, on a la réponse. Parce que c'est quoi le émettre la amito? Émettre la amito, ça veut dire que c'est pas parce que le message est vrai que c'est suffisant. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. C'est pas parce que le message est vrai, oui, merci, que c'est suffisant. Je dois me persuader que le message est vrai. Et c'est comme ça que je fais un pas vers Akadosh Baruch Hu.
Enfin, je dois me persuader.
Je dois comprendre. Je dois être persuadé.
Parce que se persuader oui, pour se persuader, ça n'a pas de sens.
Et c'est ça. C'est ça le sens de la tefila. Le sens de la tefila, c'est se persuader, d'accord? Je dois me persuader, donc je dois comprendre, me persuader que je crois fortement en ça. Et que je suis dedans, j'y crois. Après, quand on a fait une bonne tefila, la Torah qui apparaît derrière, c'est du gâteau. C'est du gâteau. Après, quand on étudie dans la Torah, on étudie une halakha. C'est pas une halakha, je suis pas en train d'étudier un texte de loi. Je suis en train d'étudier la parole de la Kadosh Baruch Hu, ça n'a rien à voir. D'accord?
La tefila, c'est branche.
Bien sûr. La tefila, c'est le pas de l'homme vers Akadosh Baruch Hu. Une fois que l'homme a fait le pas vers Akadosh Baruch Hu, après Akadosh Baruch Hu fait le reste. Mais on doit, l'homme doit faire le pas vers Akadosh Baruch Hu. Particulièrement dans la tefila.
Ça change quoi? Je suis d'accord.
Parce que bon, c'est très bizarre.
J'ai pas suivi.
C'est bizarre. Quand tu veux étudier un texte de ce que tu veux, pas forcément de Gemara, tu fais un pas vers Hashem aussi, tu le comprends pas. Moi, c'est le racisme.
Tu veux essayer de...
Non mais ça dépend du niveau aussi.
Il y a quelque chose de spécial dans la tefila, c'est pas ça, c'est pas possible.
Casser la tête pour
quand tu étudies, je répète.
Quand tu fais une mitzvah, tu fais un pas vers Hashem.
Quand tu étudies, excuse-moi, peut-être parce que tu... Bon, ça verra avec le temps, mais lorsque... Non,
non,
non.
On doit se casser la tête pour comprendre le mot tabou.
Non mais sérieusement, je dis quelque chose de sérieux. Écoute bien ce que je suis en train de te dire. Lorsqu'on étudie la Gemara, ou lorsqu'on étudie un texte de Halakha, tu n'es pas en train de sentir comment Dieu est en train de s'exprimer par ta bouche. T'es en train d'essayer de comprendre ce que Dieu voulait dire.
Mais c'est pareil, tu vas
pas... Mais pas du tout. Ça n'a rien à voir.
Ton esprit et le sien, ça fait...
Mais pas du tout. Mon esprit et l'esprit de Dieu ne fait pas rien du tout quand j'étudie une page de Gemara. J'essaye de comprendre ce qu'il voulait dire. Bon. Mais ça n'a rien à voir. Ça veut dire que je peux être complètement à côté de la plaque. Je peux me perdre. Je peux m'arrêter uniquement sur l'aspect théologique de la Torah. C'est très intéressant. Vous savez que vous avez des gens qui étudient la... Tu sais qu'aujourd'hui encore, tu as des gens qui étudient la Gemara. J'entends, il y a quelqu'un qui étudie la Gemara, sans kippa, le Shabbat, avec une cigarette, un petit morceau de cochon à côté.
On parle pas de ça là.
Pas qu'à faire.
On parle pas de ça.
Non mais là tu vas à l'extrême.
On parle pas de ça.
Allez,
tu
vas à l'extrême. Avec une femme dans les bras, allez bon.
Ça n'a rien à voir.
À Miami, non.
Il a tout gagné.
À Miami, ou...
Ça n'a rien à voir.
C'est comme si tu me dis...
Il est pas convaincu.
Mais attendez.
Mais c'est là ou pas? Il y a des sadiques.
Mais il comprend Zagmara. Il comprend Zagmara. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Dans le Zohar, on explique qu'il y a ce qu'on appelle Ilana des Chayé et Ilana des Mété. D'accord? Ilana des Chayé, Ilana des Mété, c'est l'arbre de vie, l'arbre de la vie, d'accord? Et l'arbre de la mort.
L'arbre de contre-arbre.
D'accord? Écoutez bien, c'est quoi la différence? Très simple. Le Zohar explique la chose suivante. Il dit, lorsqu'on parle de l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance, donc l'arbre de la vie et l'arbre de la mort, il dit, c'est très simple. Il dit, l'arbre de la vie, c'est lorsque, quand on étudie la Torah, au travers de la Torah, on s'attache avec Akadosh Baruch Hu et on le sent. Ça, c'est l'arbre de la vie. L'arbre de la mort, c'est quoi? C'est lorsque, Dieu préserve, on utilise la Torah pour des fins personnelles. Chez Mishmor, par exemple, parce que c'est kiffant, parce que c'est sympa, mais rien à voir avec le fait que la Torah, c'est la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Explique le Zohar, il dit, c'est ça le sens de l'arbre de la connaissance. L'arbre de la connaissance, il pouvait être bon comme il pouvait être, d'accord? L'arbre de la connaissance, il pouvait être, si ça te rassure, je suis pas payé.
Non! Alors.
Si, t'es payé quand même.
Ah, zéro.
Psychologiquement, t'es payé.
Ah oui, ouais, bien, ouais, bon.
C'est ça, mec, quand il va voir le banquier, lui, psychologiquement.
Alors, je suis pas écoutez bien. Le Zohar explique que c'est quoi l'arbre de la connaissance? L'arbre de la connaissance est sa date. C'est un arbre qui peut être soit bon, soit mauvais. Et il dit à quoi ça correspond? Eh bien, ça correspond à une étude qu'on fait. Quand on étudie, par exemple, la Gemara. Tu étudies la Gemara, tu étudies un texte de la partie dévoilée de la Torah. Là, ce que j'entends dans la partie dévoilée de la Torah, voilà, c'est la Gemara, la Halakha, le Chumash. Explique le Zohar, lorsqu'on étudie un texte comme ça, c'est l'arbre de la connaissance. C'est quoi l'arbre de la connaissance? Ben, ça veut dire que autant on peut l'utiliser pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu, et autant Chas Veshalom, on peut l'utiliser au contraire pour des fins personnelles, et là c'est très grave. On raconte pas plus tard que cet après-midi, j'ai lu une histoire du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, une fois, il est arrivé à la porte d'entrée dans Beth Amidrash, et il a dit, je peux pas rentrer dedans. Il a dit, je peux pas rentrer dedans parce que il y a trop de paroles de Torah et des mots de Tfila. Ah, ils ont pas compris, c'est lundi matin, c'est dire quoi, trop de... Au contraire, c'est là qu'il faut rentrer. Alors, expliquez, leur dit, je vais vous expliquer. Quand on dit des mots de Torah, et des mots de Tfila, ces mots montent chez Akadosh Baruch Hu. Mais dans quel cas ils montent chez Akadosh Baruch Hu? Lorsqu'on a envie de les faire monter. C'est-à-dire lorsqu'on fait un pas vers Akadosh Baruch Hu. Mais là, ils sont restés là. Donc il dit, ils sont restés là, j'arrive pas à rentrer à votre place. Et il n'est pas rentré.
Donc, bah, ils disent que je t'ai dit il y a quart d'heure.
Je plains, c'est Beth Amidrash. D'accord? Il n'y a pas de problème. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est très important. Ça veut dire que si on veut que la Torah monte chez Akadosh Baruch Hu, si on veut que lorsqu'on étudie la Torah, on a le sentiment qu'on s'approche d'Akadosh Baruch Hu, on est obligé de passer par une couche de profondeur de la Torah. Après, la forme, peu importe. Ça peut être Tanya, ça peut être ce que vous voulez. C'est très important. Et c'est le pas qu'on fait vers Akadosh Baruch Hu. Parce que sinon, c'est encore pire. Sinon, celui qui rentre dans cet engrenage, qu'est-ce qui se passe? Bah, quand il étudie sa Gemara, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il est en train de, on va l'appeler pour l'histoire le mitnagen, hein, enfin, entre guillemets. Enfin, c'est pas mitnagen, hein, quoi.
Appelons-le le lituanien.
Non, c'est une blague.
Le lémurien.
Non, parce qu'aujourd'hui, honnêtement, le mitnagen n'existe plus, aujourd'hui.
Il a été décimé.
D'accord. Décimé honnêtement, ça n'existe plus. Non, pas du tout. Je vais expliquer c'est quoi le mitnagen. Le mitnagen, c'est celui qui va étudier uniquement la Torah, et qui n'a aucune pensée pour son avancée personnelle par Akadosh Baruch Hu. Je vais vous dire qu'est-ce qui va se passer avec cette personne-là. Lorsqu'il étudie la Torah, lorsqu'il étudie la Gemara, il étudie un texte qui est très intéressant. Il étudie un mode d'emploi. Bon, c'est sympa. Mais il n'est pas en train de monter vers Akadosh Baruch Hu. Attendez, j'ai pas fini. Il continue, il fait cette fille-là. Qu'est-ce qu'il pense? Quel kavana il a quand il fait cette fille-là? Bah, il a la kavana, je suis en train de demander à Akadosh Baruch Hu de me donner la parnassa, etc. Donc encore une fois, c'est une manière de prier qui est égoïste. Ça veut dire que toute sa vie, cette Torah et cette fille-là tournent autour de qui?
Donc,
autour de lui.
Donc c'est mieux de
d'être. Là, c'est un problème. Cette personne-là, cette fille-là et cette Torah. Attendez, cette personne-là, cette Torah, cette fille-là, tourne autour de qui? Tourne autour de lui, donc c'est bloqué. Donc ça n'avance pas.
D'accord, mais quelque part. Mais quelque
l'étude de la Gemara, elle peut se faire dans le Pshat, ou elle peut se faire dans le Sod.
Non, ça n'a rien à voir.
C'est pas grave, il y a des choses qui disent à l'individu qui ne disent pas à l'autre, mais c'est pas grave. La Gemara, on peut l'étudier aussi dans les Sod.
Oui, mais celui qui étudie comme ça, il ne l'étudie pas du tout là en tant que Sod, il l'étudie en tant que Pshat.
Tu me parles, d'accord. Mais...
Vous savez, il y a des gens, mais je ne parle pas de vous, Chas Veshalom, vous êtes prof dans des vidéos.
Non, on n'est pas dans le Pshat.
Alors, il y a des... Bien sûr, c'est un tel esprit. Il y a des gens qui ont une allergie à tout ce qui est mystique. Il y a des gens comme ça. Il dit, moi, c'est le pchat. Moi, le pchat, moi, tout ce qui est mystique, je touche pas à ça. Le concret. D'accord? C'est un grand piège, ça. C'est des gens qui ne pensent pas, écoutez bien, c'est des gens qui ne pensent pas à leur avancée personnelle. C'est moi, avancée personnelle, moi, pour moi, je me fais mon daf de Gemara, je me fais mon kiff, quand je fais ma tefila, je demande à Dieu de me donner ce que j'ai besoin. Vas-y, donne-moi, donne-moi. Chasvei Shalom, Hashem Ishmor, c'est comme ça. C'est comme ce qu'il dit ici. Une personne comme ça, il a jamais fait un pas vers Dieu, donc Dieu ne fait jamais un pas vers lui. C'est-à-dire que toute cette Torah, c'est une Torah qui reste bloquée en bas. Le Zohar appelle ça, je sais pas si vous vous rappelez, hein, petit oiseau si tu n'as pas d'ailes, ça vous dit quelque chose?
Tu peux pas.
D'accord, mais... voilà. Mais c'est ça. C'est, on a, chapitre 41 de Tania. Ouais, ouais. C'est ça. C'est une personne, Dieu préserve, qui a fait Torah, mitzvot, mais qui n'a pas d'ailes, qui n'a pas d'amour, qui n'a pas de crainte, donc ça vole pas, ça reste en bas. Le Baal Shem Tov dit, je suis bloqué, je peux même pas rentrer dedans. Le Baal Shem Tov ressentait ça. Donc voilà pourquoi c'est extrêmement important, et ça c'est, dans la Teshuvah Ila'a, c'est extrêmement important dans cette Teshuvah Ila'a, le travail en amont et en aval de la Teshuvah, c'est de continuer à faire un pas vers Akadosh Baruch
Hu. C'est toujours une fin personnelle. D'accord. Tu le fais pas pour la collectivité,
Non. La fin personnelle peut être de le faire pour Akadosh Baruch Hu. Vous savez, il y a des gens qui pensent qu'on pense au couple. D'accord. Ça change pas. Non, je le fais pour m'attacher à Dieu. C'est pour Dieu. Écoutez bien. Écoutez bien. Il y a des gens qui pensent qu'il faut penser au couple uniquement avant le mariage. Avant le mariage, ils vont être un mari exemplaire. Les cadeaux, les fleurs, tout ce que tu veux. Mais une fois qu'il est marié, ça y est. C'est fini, chlet. Il dit, ça y est, maintenant c'est fini. Maintenant, hab, maintenant c'est toi qui t'occupes de moi, maintenant. Allez, maintenant tu t'occupes les repas, etc. D'accord? J'ai donné, j'ai investi, maintenant c'est toi qui donnes. D'accord? Ben oui, retour sur investissement. Qu'est-ce qui se passe, celui-là? 5 ans plus tard, et c'est déjà pas mal, j'ai 5 ans plus tard, divorce! C'est la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Écoutez bien, quand on fait teshuva, il y a des gens, ils ont fait teshuva, donc ils ont fait un investissement. Ils disent voilà, je donne. Après, une fois maintenant qu'il est devenu religieux, ça y est. Maintenant, retour sur investissement. Maintenant, je me laisse aller. J'étudie, je m'occupe plus de Dieu. C'est à Dieu de s'occuper de moi. Eh ben non, ça marche pas comme ça. Quand on réfléchit comme ça, qu'est-ce qui se passe? On arrête de faire un pas vers Dieu, donc Dieu arrête de faire un pas vers nous. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça recule. Distance. On comprend pas comment. Le gars, il est religieux, mais il est à côté de la plaque. Il est complètement à côté de la plaque, il sait pas où il va. C'est pour ça que je dis l'Admor HaZaken, très important de, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, en amont et en aval, de continuer constamment à faire des pas vers Akadosh Baruch Hu. Comment je fais un pas vers Akadosh Baruch Hu? C'est dans des petits détails de la vie de tous les jours. Comme lorsque, par exemple, je fais ma tefila.
C'est trop dur.
C'est un moment propice pour ça. Je dois sentir que je fais un pas vers Akadosh Baruch Hu. Ah, d'accord.
On sait bien que, bon...
Ah, elle était vide en vérité.
Non,
d'accord.
Non.
C'est un leurre. C'est un leurre,
ouais. Non, c'est
ah, c'est pas mal ça.
Ouais. T'es prêt?
Ça fait des gorges.
Bon. Alors, donc ici, il parle de.
Non,
c'est
l'hiver.
Il bouge pas, on parle de toi. Très déjà, là, on parle de personne, on
parle de nous.
Non mais c'est un grand piège ça, parce qu'après on peut être pris par le rituel de des mitzvot aussi, et se rester dedans.
Non mais, excuse-moi, l'histoire du Baal Shem Tov c'est quoi? C'est les gens qui font la Gemara, que les mots ils restent en bas. Donc quand ils font la Gemara, tu
veux. Mais pourquoi ils restent en bas les mots? Pourquoi ils restent en bas?
Parce qu'ils font ça d'une manière, comme tu dis, mécanique.
Mais c'est pas mécanique, non, parce qu'ils le font, parce qu'ils ne cherchent pas ce qui se cache derrière.
Il y a des gens qui cherchent, qui font ce qui se cache derrière.
Alors écoute bien ce que je suis en train de te dire. Si tu n'as pas pensé, tu n'as pas fait un pas vers Akadosh Baruch Hu,
tu vas faire un pas vers Akadosh Baruch Hu que d'aller à un cours de Gemara.
Pas du tout. Pas du tout.
Ah, tu sais, c'est un pas vers Hacham de faire une mitzvah tout court.
J'étais, comment on appelle ça? J'étais il y a quelques semaines.
Oui.
J'étais il y a quelques semaines à une session pour les aumôniers. Et au rabbinat de, enfin je suis pas aumônier, non, je... pour avoir le droit de rentrer dans les hôpitaux, parce que maintenant tout est, d'accord, je suis pas aumônier, parce qu'aumônier c'est un poste, etc., juste pour travailler avec l'aumônerie des hôpitaux. D'accord. Et il y avait là-bas un avocat qui a parlé, surtout l'aspect juridique, parce que vous savez, des fois quand vous vous présentez pour rentrer dans l'hôpital, on vous laisse pas rentrer, donc il faut savoir quels sont les droits du rabbin, quels sont les droits du patient, etc. Et une chose qui m'avait marqué, c'est que l'avocat, celui qui nous a présenté, c'est un juif, mais pas religieux du tout. Je crois que même Kippour, tout juste, je sais même pas s'il fait Kippour. Il nous l'a dit. Et il nous l'a dit, bon, il l'a fait parce qu'il est proche de la communauté, mais il fait pas. même les tefilines, ça veut dire on a dû presque le démarcher pour le mettre les tefilines. Mais par contre, ce qu'il m'a raconté, écoutez bien, ce qu'il nous a raconté, il nous a raconté que ça m'a marqué. Il nous a raconté qu'il est passionné par la Gemara et qu'il a un cours de, il va à un cours de Gemara chaque semaine.
Maintenant, juste, une fois maintenant, par semaine.
Maintenant, attendez.
C'est pas la passion, ça.
Maintenant, bon, attendez. Semaine, attendez. Voilà, maintenant, pour vous dire, il nous parlait à nous, à tous, à des rabbins, d'accord? Il parlait sans kippa. Au rabbinat. C'est-à-dire qu'il est out, complètement.
Il y a plein après, je crois qu'il
d'accord? Mais pas complètement. En page Kenaz, c'est Sfarad, un bon Sfarad, mais bon. Malheureusement.
J'avais dit, il pouvait pas la
oui, Wiesel,
peut-être qu'il assiste à un cours de Gemara, c'est possible.
Ah, il assiste à un cours de Gemara, d'accord.
Bah, non, mais qu'il est étudiant, mais c'est intellectuel.
Pourquoi c'est comment ça se fait c'est ça le chat. On va expliquer ici. C'est ça l'arbre de la connaissance. L'arbre de la connaissance, on peut l'utiliser soit en bien, soit en mal. Ça peut aller des deux côtés. Mais si une personne n'a pas fait un travail personnel pour dire à Kadosh Baruch, voilà, je te donne de ma personne, il ne doit pas s'attendre qu'après, lorsqu'il étudie la Torah, il va avoir le sentiment que Dieu lui a donné de sa personne.
Oui, mais lui qui étudie comme ça, il ne cherche pas à se rapprocher de Dieu.
Ça peut être vrai que... S'il ne fait rien pour le couple... Hein, quand même.
Pardon, Mendy, quel était l'intérêt de te raconter ça?
C'est moins une question de support qu'une question de...
Pour lui.
Ah rien, mais quel naturel. Ah non, c'était...
N'importe quel support.
Comme ça. Pour lui, c'était comme ça.
Mais c'est pas parce que je suis pas religieux que tu dois pas me considérer en tant que
ça. Non, 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 il nous l'a raconté naturellement, comme ça. C'est Chaim.
Oh, Rotal, j'ai déjà fait. Bon. Non.
Non, mais
tu peux.
Non, il est filmé.
Chaim.
Il est très, très compétent en économie, en sciences politiques, dans plein de domaines. En Torah, en général, il connaît rien du tout.
Attendez. Ça peut être quelqu'un de religieux.
Mais non, on parle pas de ça.
Oui, oui. Ça peut être. Non, mais c'est très important.
Est-ce que c'est le piège aussi? Quelqu'un qui fait. Parce que moi, j'ai assisté à un cours. Et le mec, il fait tout Alpi Zohar.
Non. C'est rien comme ça, quelqu'un qui étudie la partie profonde de la Torah. Après, peu importe le, oui. Peu importe le médium qu'il utilise.
Après le Zohar.
Le médium. Enfin, peu importe le médium, peu importe le média qu'il utilise. D'accord. Écoute bien ce que je viens de dire. Ne change pas, non. Après, t'as des gens qui étudient le Zohar, t'as des gens qui étudient les Tachar Haïm, t'as des gens qui étudient Ramchal, t'as des gens qui étudient Tanya. Ce que tu veux, après c'est un détail. Mais une personne qui ne pense pas à son avancée personnelle vers Akadosh Baruch Hu. Après, bien sûr, moi je dirais que le Tania c'est la meilleure méthode, mais bon, ça va plus vite. Mais quoi qu'il en soit, après c'est les détails ça. Ce qui compte, et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui le vrai Bitnaget, je pense que ça n'existe pas. Parce que, non, je pense pas.
J'ai entendu qu'il est grave. Le Baal Shem Tov c'est une fable.
Oui, mais il est en train de faire ce que le... Il est en train d'accomplir. Une personne qui te parle comme ça, trouve-moi aujourd'hui une personne qui ne passe pas du temps dans sa semaine, dans sa journée, pour étudier un texte qui parle d'avancée personnelle. Il y a pas, ça n'existe pas. Dans toutes les yeshivas de tout le monde,
pour nous, Sfarad, c'est
la question s'est jamais posée.
C'est jamais posé.
Oui.
Il n'y a pas eu de problème.
Tu as raison.
Voilà,
certes.
Donc c'est quelque chose qui est étranger à nous. Voilà. C'est pour ça qu'on comprend pas.
Oui.
On voit pas de ça.
C'est vrai, moi je parle de Zaskana, si on parle.
Sache qu'il y avait des gens, quand, aujourd'hui, il y en a encore très peu. Il y a des gens qui se disent rationnels, tu vois, Zerma, aujourd'hui on appelle ça, je sais pas pourquoi on a mis ça sur Maïmonide, tu vois, Zerma, Rambamiste, Maïmonide, moi je suis Maïmonide, moi. Tu vois, des gens, aujourd'hui, des gens qui sont complètement, qui croient en rien, mais dis-moi, je suis Maïmonide. Non, il déségarait, il égarait lui-même.
Il voulait dire qu'il a été à l'école Maïmonide.
Oui, c'est n'importe quoi. D'accord? Mais, ce que je veux dire ici, ce que je suis en train de dire, c'est que, attends, pourquoi je dis ça? Parce que, oui, voilà. Il faut savoir que lorsque le Baal Shem Tov est arrivé, d'accord? On avait affaire à des gens, qui étaient, non pas assimilés, des gens qui étaient émancipés, et qui disaient pour nous, oui.
Ils rationalisaient leur vie.
C'est-à-dire qu'ils rationalisaient leur vie, mais ces gens-là, le problème, c'est qu'ils ont arrêté de faire un pas vers Dieu. Ils essayent de faire tourner Dieu autour d'eux. Ouais, vas-y, Dieu, il danse, vas-y, donne-moi ci, donne-moi ça, j'ai compris ci, j'ai compris ça, j'ai pas compris, ça je mets. Dieu, il danse autour d'eux!
C'était plus à la mode.
C'est quoi ça, c'est, comment ils appellent ça, il y a le monde, soit il est, géocentrique ou, comment
dit,
héliocentrique, voilà. Soit héliocentrique ou géocentrique,
soit le
d'accord
soleil.
Ben oui, justement. Alors, soit on dit que Dieu est, que tout est géocentrique, ça veut dire que Dieu il tourne autour de nous, soit c'est héliocentrique, que tout tourne autour de Dieu. Il y a géocentrique, comment on peut dire ça, hein,
pour ceux qui aiment le... Bien,
voilà,
bien, c'est très bon, c'est
géocentrique. Géocentrique, voilà, c'est pas mal, hein.
Oui,
deux centriques.
Voilà, deux centriques.
D'accord
oui,
voilà, on a compris. Donc vous avez compris que voilà, en un mot, d'accord en un mot, c'est quoi le message du cours d'aujourd'hui, parce qu'on va s'arrêter, c'est l'heure. Ouais, on a beaucoup de choses à se dire pour la semaine suivante. C'est quoi le... énorme.
On l'a vu,
pas du tout. Alors là, ça c'est... Bon, si toi tu l'as vu, quoi la cavale.
Non, mais dans les chapitres précédents.
Qu'est-ce qu'on a vu dans les chapitres précédents?
Après, il va parler de brachot.
Non. La partie qui va expliquer ici, c'est le concept de... Le concept que même dans la Teshuva, peut-être qu'il a lu la suite, possible. Le concept de... Attendez. Écoutez, le chidouche d'aujourd'hui, ça c'est un chidouche extraordinaire. Si tu l'as déjà vu, il n'y a pas de problème. Moi je ne l'ai pas vu en tout cas.
On n'a pas vu le prophète Kenny, on n'a pas vu Rabbi.
Non, mais cet aspect-là qui est ici, là, que dans la Teshuvah il a, dans la Teshuvah il a, c'est-à-dire qu'en aval, après la Teshuvah, on doit constamment continuer à faire un pas vers Akadosh Baruch Hu. Et que si on ne fait pas un pas vers Akadosh Baruch Hu, Dieu recule. Et que comment dans la vie de tous les jours, on doit continuer à faire un pas vers Akadosh Baruch Hu. Et que si on ne fait pas un pas vers Akadosh Baruch Hu au travers de notre Tfila, même notre Torah sera une Torah qui sera dénuée de sens. C'est un grand chidouche. Ça, pour l'instant, on l'a pas vu. C'est extraordinaire ce qu'il dit ici. Oui, ça veut dire qu'on peut avoir affaire à une personne qui étudie la Torah. Toute la journée, il passe à étudier la Torah, dans un kollel. Mais il passe pas du temps à penser à son avancée personnelle, à avancer vers Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que il attend que Dieu fasse un pas vers lui, mais que lui ne fait pas de pas vers Akadosh Baruch Hu. Hachem Ishmor, mais ça, je pense, ça n'existe pratiquement plus aujourd'hui. D'accord? Attendez deux secondes, laisse-moi finir. Laisse-moi t'expliquer le chidouche, si je peux me permettre, deux secondes. Donc, une personne comme ça, qu'est-ce qu'il est en train de dire à Admorazaken? Une personne comme ça, sa Torah ne monte pas chez Akadosh Baruch Hu. Il perd son temps. Ça veut dire qu'il a peut-être fait Teshuva à un certain moment de sa vie. Peut-être qu'à un certain moment de sa vie, il est monté vers Dieu. Mais puisqu'il ne maintient pas, il n'y a pas de SAV, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de service après-vente, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, sa Torah ne monte pas chez Akadosh Baruch Hu. Voilà pourquoi c'est très important d'accorder de l'importance à l'avancée personnelle et notamment à la Tfila. Alors, j'ai pas encore expliqué qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans la Tfila. On a simplement dit entre les lignes que dans la Tfila, il y avait le schéma. Bon, ça pour l'instant, c'est le... Et alors? Il va expliquer après dans les mots. D'accord? Il va expliquer après qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le schéma. Et pas seulement ça. Il va expliquer ce qu'il y a de particulier dans une mitzvah. Et comment, lorsqu'on accorde de l'importance aux mitzvot, vous avez des gens qui n'aiment pas les mitzvot. Mais qui les font parce qu'ils n'ont pas le choix. Ça veut dire qu'ils vont faire les mitzvot le strict nécessaire. Vas-y, tu dis pour lui, on ne prend pas la tête, moi c'est la Torah, moi je suis rationnel. D'accord? Et il va expliquer que finalement, on a parlé aujourd'hui de la tfila, mais la semaine prochaine on développera plus longuement la tfila, on expliquera que c'est pas seulement la tfila, c'est même les mitzvot. Lorsqu'une personne prend du temps pour faire une mitzvah, il est en train de faire un pas vers Akadosh Baruch Hu. Par définition, une mitzvah, c'est faire un pas vers Akadosh Baruch Hu. D'accord? Parce que par définition, il expliquera comment, avant de faire une mitzvah, on dit à Cher, qui déchane ou mitzvotav, c'est moi qui déchane. Attends, ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, effectivement. D'accord? Mais il va expliquer, d'accord? Comment, la tfila, d'accord? Si tu penses qu'on l'a déjà vu,
qui déchane ou c'était dans les deux sens, de bas vers le haut et le haut vers le bas.
Oui, ça, c'est, qui déchane ou, je l'ai pas dit encore.
C'est après. Pourquoi on pense d'accord que c'est un ridouche?
Pourquoi?
La prière, ça va de soi, qu'il faut faire la prière de toute façon.
Non. Le ridouche, c'est que quand on fait la prière, on fait un pas vers Akadosh Baruch Hu.
Et quand on fait une mitzvah, pourquoi on dit que c'est un chidouche?
D'accord. Et que si on ne fait pas ce pas-là, si on bâcle cette fille-là, automatiquement, la Torah d'après sera bâclée, même si on veut le contraire.
Excuse-moi, mais dans la Gemara, on autorise de ne pas faire cette fille-là au profit de l'étude?
Non.
Comment on peut expliquer ça?
Ça, c'est uniquement pour les gens, si tu as pris la Gemara.
Dans la Torah et le métier.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi que la Torah et le métier?
Leur travail.
Ça veut dire quoi? Comment tu comprends ça? La Torah et son métier?
C'est-à-dire que...
Je le sais.
Ouais, non, plus que ça. C'est-à-dire que c'est son salaire.
Alors, excuse-moi.
Mais... Il fait ça. Il vit de ça.
Umanuto, ça veut pas dire que la Torah est son métier.
Non,
non. Umanuto, Uman en hébreu. Uman, pas Uman comme... D'accord. Uman en hébreu, ça veut dire une profession. Ça veut dire qu'il est professionnel dans ça. Ça veut dire quoi être un professionnel de la Torah? Ça veut dire une personne qui est capable, à un niveau comme Rabbi, tu sais qu'il y a que quelques personnes qui sont réussi à avoir au niveau de devenir pro de la Torah, qui ont été élevés au niveau pro, comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y en a très peu, même parmi les Tanaïm et Amoraïm. Tu pouvais dire, nous on est au niveau de professionnalisme de la Torah. Parce que c'est très très difficile. C'est quoi le professionnalisme de la Torah? C'est celui qui est capable de dire, sans passer par la tefila, sans passer par la mitzvot, je suis au niveau qu'au travers de la Torah, je m'attache à Dieu.
C'est un expert.
Qu'au travers de la Torah, je fais un pas vers Dieu. C'est très très dur. C'est pratiquement impossible à le faire tout seul. Nous, d'accord, nous autres, communs des mortels, on est obligés de passer par la tefila.
Donc d'où le chidouche.
C'est une chidouche. D'accord. Ça veut dire que la teshuva, c'est en amont et en aval. Voilà.
Ça veut dire quoi que la tefila, c'est bien particulier alors.
Ça veut dire que, mais c'est pas que la tefila, c'est une approche. C'est pas que la tefila, c'est une approche. C'est que, c'est très important, c'est qu'il y a des gens, une fois qu'ils ont fait teshuva, ils pensent que maintenant, je dois m'occuper de l'étude de la Torah, et que tout l'aspect pratique, il faut le laisser pour aller à Meharetz. C'est très très profond ce qu'on est en train de dire ici.
Au garder l'esprit.
Je sais pas, mais on connaît pas ces gens-là.
Bah, non seulement qu'on le connaît, c'est nous-mêmes. D'accord, bien sûr.
Et dans la lecture du schéma, pourquoi il ne reprend pas le pasouk schéma Israël?
Lorsque
dans la lecture du schéma, quand il dit Bikriyat Shema ou Vetrotera, pourquoi il ne dit pas Kedelomar Ve'Aftan? Pour Kedelomar, Shema Israël, Hashem Elokeinu.
Je ne sais pas encore, je me suis arrêté là, ça on va faire la semaine prochaine. Je sais pas encore.
Il n'a pas dit le premier pasouk qui est le plus important.
Non, j'ai pas encore lu la suite, ça c'est après.
Là,
on n'a pas étudié Va'afta, Bechol Vavra, Vranavshecha, on n'a pas étudié Va'yod, Parimaele, on n'a pas étudié. Ça, j'ai pas encore, je me suis arrêté là pour l'instant. Mais le concept, on l'a expliqué. C'est mon prochain, Grand Hachem. Le concept, on l'a expliqué. C'est quoi le concept? Le concept, c'est le SAV de la Tchouva. Le SAV de la Tchouva, c'est qu'on est obligé de continuer. C'est comme le mariage. Exactement comme, voilà, l'image, c'est exactement comme le mariage. Tu veux que ton mariage tienne, même une fois que tu es déjà marié, tu dois continuer à passer du temps pour penser comment je peux m'approcher davantage. Tu passes pas du temps, et ben chaque pas que tu ne fais pas, c'est un pas de l'autre côté, c'est un pas en arrière. C'est comme ça. Après un pas en arrière, après tu te dis, mais attends, mais où on est? Où on était il y a 5 ans, où on est aujourd'hui? Où on était il y a 10 ans, où on est aujourd'hui? C'est normal. Parce que tu n'as pas fait un pas, l'autre aussi a reculé. C'est comme ça. Ça veut dire que si on veut que Kadosh Baruch Hu fasse un pas vers nous, on est obligé de faire un pas vers Kadosh Baruch Hu. Voilà, on s'arrête ici.
Service, ça veut dire service avant vérité.
Service avant vérité, Razak. D'accord.
Qui c'est qui a fait la fille là?
S'arrête là.